Merci beaucoup. Voilà. Et je vous propose de faire une petite reprise du cours 1 pour se remettre les choses en tête. Vous vous souvenez que la dernière fois, on a essayé d'introduire la question de l'anthropologie chrétienne. Et donc, on a commencé par repérer ce qui la caractérisait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend plein de discours différents sur l'homme, qui proviennent du champ philosophique, qui proviennent du champ scientifique, et dans lequel on est pris. Et bien sûr, la foi, elle n'ignore pas ces discours, elle les écoute, ils ouvrent des terrains nouveaux, donc ça l'oblige à pousser toujours un peu plus loin sa réflexion, qui n'empêche pas d'avoir sa propre idée de l'homme et sa propre vision à partager. Et ce qu'on avait dit, c'est que ce qui distingue la foi, ce qui lui permet de faire entendre un discours que les autres ne font pas entendre, c'est qu'elle réfléchit à la lumière de la révélation divine. Autrement dit, qu'elle intègre Dieu dans la réflexion. Et vous vous souvenez de la formule de Guéché, Inte legere, se comprendre en toi, ou la collection qu'il avait fondée, Dieu pour penser l'homme. Voilà. Que Dieu peut être un paramètre qu'on introduit dans la réflexion et qui va ouvrir des horizons nouveaux. Et pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Parce que le Dieu des chrétiens est fondamentalement un Dieu qui s'intéresse à l'homme. C'est un Dieu qui vient à notre rencontre. Qui veut rentrer en alliance avec nous, qui dialogue avec l'homme, et surtout qui l'aime d'un amour incommensurable, un amour qui se dévoile pleinement où? Dans le Christ, et notamment dans sa mort et sa résurrection, mais déjà par le fait qu'il soit venu assumer notre condition humaine, en toute chose. Vraiment Dieu et vraiment homme. Donc, c'est lui qui nous fait connaître, au fond, ce qui nous sommes. Et vous vous rappelez peut-être cette phrase de Gaudium et Spes au paragraphe 22. Je vous avais dit, c'est peut-être la chose à retenir de la dernière fois. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Ça veut dire que celui qui manifeste à l'homme qui il est en vérité, c'est le Christ. Et on lisait même un petit peu plus loin, le Christ est celui aussi qui lui découvre la sublimité de sa vocation. Il utilisait cette expression de sublime. Pourquoi sublimité? Parce que, comme le Christ, on est appelé à quelque chose d'absolument inouï, c'est à entrer avec Dieu dans un rapport de communion, de vie intime, quasi filiale, dès maintenant et pour l'éternité. Celui qui disait ça avec ses propres mots, c'était saint Augustin qui disait « Nous sommes faits pour Dieu, capables de Dieu, est fait pour Dieu. On est des créatures qui ont été voulues par amour et qui sont appelées à s'accomplir dans ce lien d'amour. Et donc pour la foi, c'est là qu'il faut chercher la vérité de l'homme. Voilà ce qui la distingue. Donc vous voyez, tout part finalement d'un appel, un appel que Dieu nous adresse. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit dans le premier cours, c'est pas nous qui cherchons par nos efforts à atteindre Dieu, c'est déjà lui qui vient à nous. Qui nous adresse un appel. Et cet appel, où est-ce qu'il commence? Eh bien, il commence déjà dans l'acte de notre création. Dans l'ordre de la foi, la création, c'est la relation fondamentale entre Dieu et l'homme. Et c'est pourquoi on va commencer par elle. Et cette thématique, elle va nous occuper deux cours, donc c'est le chapitre 2, mais deux cours. Aujourd'hui, où on va ouvrir le dossier biblique, et le second, dans 15 jours, où on abordera des enjeux plus spécifiquement théologiques. Mais je voudrais revenir d'abord sur une petite mise au point sémantique, sur le terme lui-même de création. Le mot de création, en premier lieu, et dans ce cours, c'est comme ça que le plus souvent on va l'utiliser, ça désigne un acte, l'acte de création, l'acte par lequel Dieu fait advenir, promeut à l'existence une réalité qui n'existait pas avant, qui ne préexistait pas, l'acte. Mais le terme de création, il a aussi un sens dérivé, très courant, qui consiste à nommer la réalité elle-même, c'est toutes les choses créées, on va appeler ça la création. Vous voyez que là, on n'est pas dans l'acte, on est dans les choses, la création qui nous entoure. Donc ça, c'est important de... Bien, à chaque fois que je parle de création, là, c'est vraiment le geste de Dieu, en fait. Et puis, avant de démarrer, parce qu'après, on va rentrer dans des grandes considérations bibliques, théologiques, j'ai envie de vous rappeler une évidence qu'on ne doit pas perdre de vue. Et je suis tombée il y a quelques jours sur cette phrase de l'écrivain François Cheng, et en fait, qui m'a dit, bah, c'est parfait. J'avais envie de vous la partager. Je vous la lis parce que je n'ai même pas eu le temps de la mettre dans le plan. Avoir connu la vie, avoir vécu, est loin d'être une chose banale. C'est même la chose la plus inouïe, la plus impensable qui puisse arriver au sein de cet univers sans bornes. Nous sommes, et c'est inouï. Et je me dis que, avant que notre réflexion commence, peut-être qu'il faut se rappeler cet émerveillement et qu'elle aboutisse aussi à cet émerveillement. L'émerveillement de la vie reçue. Alors, je vais partager l'écran pour vous montrer un peu le plan donc, que vous avez dans les pièces jointes. Alors, voilà. Partager. Alors, je remonte là. Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Je reviens au plan. Donc, on va commencer par une introduction qui va prendre quand même une bonne place parce que ça va mettre un peu les choses en ordre. Et puis après, vous voyez, on va lire Genèse 2 et lire Genèse 1. Puis une rapide conclusion. Alors, l'introduction. Alors que je viens de vous dire que la création est la relation fondamentale entre l'homme et Dieu, eh bien, il se trouve que ce thème de la création en théologie est passé vraiment par un temps d'effacement. On s'en est un peu désintéressé. Et je trouve que ce n'est pas inintéressant de comprendre pourquoi. La première raison, c'est les difficultés qui sont liées à la foi quand elles se confrontent à la rationalité scientifique. Pendant 1500 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? On a pensé la création du monde, le Dieu créateur, l'homme créé, à partir de quoi ? À partir de la Bible. Et on a cru que tout s'était passé exactement comme elle nous le racontait. Et puis petit à petit, la science, dans toutes ses disciplines, hein, l'astrophysique, la cosmologie, l'astronomie, la paléontologie, l'ethnologie, nous ont fait découvrir que les choses s'expliquaient autrement. Et sur quoi ça débouche ? Eh bien, sur un contentieux entre l'Église et le monde scientifique. Je voudrais juste pointer quelques points chauds. Il y en a qui vont vous rappeler quelque chose de la dernière fois. Pour commencer, la fin du géocentrisme. Toute l'Antiquité, à de très rares exceptions près, voyait la Terre déjà ronde, mais fixe et immobile au centre du monde. Et il y avait un savant, Ptolémée, qui avait synthétisé toutes les recherches astronomiques et qui avait vraiment consacré ce modèle géocentrique. Et puis vous vous rappelez de l'humiliation cosmologique de la dernière fois, arrive Copernic, qui découvre que la Terre n'est qu'un corps céleste comme un autre qui tourne autour du Soleil et il propose un nouveau modèle révolutionnaire. C'est complètement un changement de paradigme au point que c'est rentré dans le langage courant. Quand on dit maintenant une révolution copernicienne, ça veut dire qu'on est vraiment dans des changements considérables d'une manière générale. Copernic et un siècle plus tard, Galilée, la lunette astronomique, et il confirme, la Terre n'est plus au centre du monde. Alors, comment est-ce qu'on tient ça avec la Bible ? Comment est-ce qu'on peut penser que l'homme, le joyau de la création, l'image de Dieu, pourrait avoir été placé sur une petite planète secondaire. Gros conflit, procès. Je ne sais pas si vous aviez vu la pièce avec Philippe Torreton il y a 2-3 ans sur Galilée. Galilée se rétracte et il doit abandonner ses recherches. Il abjure tout ce qu'il a dit. Il abjure que la Terre est au centre du monde.
Oui.
Donc à qui on fait confiance ? À Dieu ou à la science ? Et vous voyez le problème fondamental qui est derrière ? C'est celui de la vérité des écrits bibliques et donc de leur inspiration. Si la Bible se trompe, comment est-ce qu'on peut encore dire qu'il s'agit d'écrits inspirés ?
C'est intéressant.
Deuxième point chaud. Merci, mais fermez votre micro, parce que quand vous allez dire que ce n'est pas intéressant, je vais l'entendre aussi. Deuxième point chaud, la création en 7 jours. On nous dit que la Terre est le fruit d'un long processus qui se déploie sur des milliards d'années. Bon, alors est-ce qu'on peut continuer à penser que l'univers a été créé d'un coup? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de création en 7 jours? On voit bien que ça ne tient pas. Alors nous, on dit ça, mais vous savez qu'il y a des courants qui sont très présents aujourd'hui, hein, et même en expansion, notamment aux États-Unis, et qui sont nés dans les milieux évangéliques. Ça s'appelle les courants créationnistes qui vont exactement dans ce sens-là et qui nous disent... Pas du tout, c'est vraiment, ça a vraiment été créé en 7 jours. Il s'arc-boute à une lecture complètement littérale de la Genèse. C'est ce qu'on appelle des fondamentalistes. Donc, à part pour eux, à partir du moment où on commence à mettre en doute un verset de la Bible, eh bien, c'est le statut entier de parole de Dieu qu'on remet en cause. Donc, ils récusent tout le travail des scientifiques, paléontologues, etc., et ils considèrent qu'il faut enseigner aux enfants que le monde a été créé en 7 jours. Et il y a des écoles aux États-Unis où on enseigne ça. Alors, on est pris là-dedans, on cherche un moyen de s'en sortir, quelque chose qu'on a quand même plus ou moins abandonné chez beaucoup de gens, heureusement, c'est le concordisme. Je vous ai mis tout ça dans le lexique. Le concordisme, on va se débrouiller pour tirer un peu les choses, pour faire concorder la science et la Bible. Et du coup, par exemple, on va dire, ah bah oui, mais les 7 jours de la création... En fait, ce sont 7 ères géologiques. Voilà. Bon, ça n'a évidemment aucun sens. Un autre point chaud, la théorie de l'évolution. Je résume le problème. Maman, on descend d'Adam ou on descend du singe? Papa dit qu'on descend du singe et toi, tu me dis qu'on descend d'Adam. Alors, on descend de qui? Réponse de la mère. Ton père, il te parle de sa famille et moi, je te parle de la mienne. Voilà, mais on ne va pas s'arrêter là. Cela dit, quand Darwin, en 1859, publie l'origine des espèces, la polémique est énorme. Si on descend des lignées de grands singes, si on est le produit d'une évolution naturelle, que valent encore les récits bibliques de la création? Vous voyez comment on concilie les deux visions? Et vous savez que dans les grands débats qu'il y a eu, on considérait que cet argument vraiment venait mettre complètement porter un coup énorme à la dignité humaine. Alors non seulement on descend vraiment du singe, et je vais plus loin, mais l'argument a été dit, un singe serait donc l'ancêtre de Jésus-Christ. Toujours chez Darwin, à cette évolution naturelle, il y a une part de hasard. Comment est-ce qu'on pense ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de plan de Dieu, il n'y a pas de dessein, on est soumis au hasard. Voilà, c'est compliqué. Autre point, mais pour vous montrer qu'il y en a beaucoup, la question du monogénisme. Aujourd'hui, on pense que l'homme a surgi en différents coins de la planète, sous des formes différentes, qu'il y a même des lignées qui se sont éteintes. Et bien, en 1950, c'était pas si longtemps, Pie XII, dans l'encyclique Humani Generis, affirme le monogénisme, c'est-à-dire l'idée que toute l'humanité descend d'un même couple initial. Et il condamne les théories qui mettent ça en doute. Alors, on croit qui, le pape ou les paléontologues? Puis alors, si on résume tout, finalement, puisque la science explique tout, est-ce qu'il y a vraiment besoin encore d'un dieu créateur? Donc, vous voyez, le contentieux est chargé. Première raison de cette éclipse de la création en théologie. Deuxième raison, c'est qu'au XXe siècle, on s'est vraiment concentré en théologie sur le mystère du Christ et sur l'homme. La réflexion sur la foi est devenue plus existentielle. Et du coup, on se préoccupe de la manière dont elle impacte notre vie. Et on considère qu'il y a certaines questions qui sont jugées plus intellectuelles, plus spéculatives, et du coup, qu'on met un peu sous le boisseau. Ce n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est Jésus pour nous, le salut, c'est les problèmes d'anthropologie, grands problèmes autour de la théologie de l'Église, de la morale, etc. On dit les urgences, elles sont là aujourd'hui. Et alors, heureusement, ce qui se passe, c'est que depuis une quarantaine d'années, on voit à l'intérieur même du christianisme un grand regain d'intérêt pour la pensée de la création, avec plein de nouvelles publications en Bible, en théologie, des articles dans les revues de recherche, des colloques, il y en avait encore un il y a quelques mois à la Cato. Et ce qui est très intéressant, avec des auteurs qui sont des théologiens, mais aussi des auteurs qui ont la double casquette, théologique et scientifique. Des gens comme Jacques Arnoux, Martelet, François Heuvet, Thierry Magnien, qui ont une formation scientifique au départ, donc qui parlent vraiment de l'intérieur, et en même temps qui peuvent être jésuites, dominicains ou simplement théologiens. Du coup, la réflexion s'est beaucoup renouvelée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'est fait dans un contexte où la rencontre de la théologie et de la science a complètement changé par rapport au siècle dernier. Aujourd'hui, en théologie, on n'est plus dans une attitude de crispation ou de défense par rapport à la science. Aujourd'hui, on a bien compris qu'il fallait distinguer les plans, d'un côté le religieux, de l'autre côté le scientifique, qu'on n'a pas les mêmes objectifs, qu'on ne veut pas les mêmes choses. Ça, ce n'était pas vrai il y a encore quelques dizaines d'années. Pensez à des théologiens comme Teilhard de Chardin qui ont été interdits d'enseignement, par exemple, pour leur pensée, avant d'être réhabilités après. Ça, c'est du côté de la théologie. Mais du côté de la science, ça a évolué aussi. La science est devenue beaucoup plus modeste qu'elle ne l'était au 19e. On était en plein scientisme dur et triomphant. On pensait que la science aurait les réponses à toutes les questions. C'était la nouvelle religion, hein, on pourrait dire, en quelque sorte. On considérait que la science, c'était la seule source, la vraie source de savoir fiable sur le monde. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, aujourd'hui, la plupart des scientifiques reconnaissent que le réel leur échappe, parce que d'abord, ils débordent complètement l'expérience qu'on en a. Les milliards de galaxies, des milliards d'années, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut se représenter ça? C'est vertigineux. Ensuite, parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait jamais d'objectivité totale dans l'étude du réel, que le réel qu'on étudie, c'est toujours un réel perçu et non pas le réel en soi. Et puis surtout, que toutes les avancées scientifiques ont introduit énormément de complexité et d'incertitude dans la démarche scientifique. Plus on découvre, plus on perçoit aussi notre ignorance et que finalement, ça nous déborde. Et finalement, la science doit reconnaître que le fond des choses lui échappe. Sur la question en particulier de l'origine de l'univers, la science ne peut pas apporter de réponse absolue. Elle nous a fait avancer, elle nous a fait découvrir choses extrêmement importantes, que l'univers avait une histoire, qu'il n'avait pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui, mais il y a 100, ça fait 150 ans comme savoir. Jusqu'alors, on était encore dans l'univers éternel d'Aristote. Hein. Là, on découvre que l'univers a une histoire, on peut raconter cette histoire, la matière, l'énergie qui apparaissent, 14 milliards d'années, l'organisation de plus en plus complexe, la Terre qui se forme, la vie qui devient possible, les premiers hommes qui apparaissent. Ce qui est très intéressant, c'est que ce nouveau savoir ne met pas les théologiens en difficulté, parce que pour eux, qui se réfèrent à la Bible a une présentation foncièrement historique du monde et de l'aventure humaine. Qu'est-ce qu'elle nous a dit aussi, la science? Que le monde avait très probablement commencé, une notion qui était jusqu'à peu de temps extrêmement subversive, à laquelle Einstein lui-même résistait, avant de se rendre finalement à la thèse du Big Bang, une idée qui vient de qui? D'un prêtre, Georges Lemaître. Alors d'accord, le monde a commencé, mais bon, qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang? Avant ce moment où l'univers entre en expansion. Et là, mystère, on bute. Et la science ne peut pas nous dire. Et là, on a encore un point de rencontre avec la théologie. Parce que vous voyez bien que quand il arrive là, le scientifique peut être amené lui aussi à se demander quel est le sens de cette réalité. Est-ce que c'est le fruit du hasard ou pas? Einstein, par exemple, qui ne croyait pas en un Dieu personnel, n'accepte pas l'idée de hasard. Voilà. Tout ça pour dire, à grands traits, que vous voyez que la rencontre entre la foi et la science n'a plus du tout les mêmes traits qu'au XIXe siècle, où ça se passait plutôt sous la forme d'un conflit. Et donc l'objet de ce cours, ça va être de dire qu'est-ce qu'un croyant peut dire aujourd'hui de la création et d'un Dieu créateur face à tout ce qu'on vient de dire, aux découvertes de la science, aux positions créationnistes, etc. Voilà. Est-ce que ça va?
Sacré programme.
Alors, sacré programme. Alors, je vous ai dit, il y a un regain d'intérêt pour cette question, mais il faut voir que les enjeux de la question sont en fait extrêmement importants et que ce n'est pas si intello et spéculatif qu'on pourrait le penser. D'abord, dans l'ordre de la foi, par quoi commence le credo? Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Première affirmation du credo. Et par quoi commence la Bible ?
Au commencement était le Verbe. Non.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Première phrase de la Bible. En tête du credo, en tête de la Bible, l'affirmation de la création. Tout ça pour dire que cette place, elle n'est pas anodine du tout. Elle signifie que l'affirmation de la création a un caractère structurant pour notre foi. Justement parce que c'est la relation fondamentale. Donc dans l'ordre de la foi, enjeu très important de la question. Dans l'ordre éthique, enjeu... Attendez, j'arrête de partager, c'est agaçant. Attendez. Non, zut. Ah ouais, pardon, voilà, ok. Dans l'ordre éthique, des enjeux très importants aussi. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a, en quelques décennies, on a pris conscience d'une manière extrêmement aiguë de notre responsabilité face au cosmos et face à nous-mêmes comme êtres naturels. Rappelez-vous le transhumanisme, etc., qu'on avait évoqué l'autre fois. Donc, on sait aujourd'hui que les équilibres sont très instables, qu'ils peuvent être facilement rompus et définitivement rompus. Et que la crise qu'on vit, elle n'est pas simplement environnementale, c'est une crise de notre rapport au monde. Donc, vous voyez la question de la création, comment elle vient là-dedans. Ça, c'est ce qu'explique très très bien le pape François dans Laudato Si. Vous l'avez peut-être déjà fait ou vous allez le faire. Il y a un texte que vous allez étudier en groupe, qui est le chapitre 2 de Laudato Si. Laudato Si, c'est une encyclique qu'il a fait paraître en 2015. C'est vraiment un texte majeur sur la question de l'écologie et du rapport au monde. Un texte qui a même eu un retentissement parfois plus fort en dehors de l'Église qu'à l'intérieur même de l'Église. Et vous verrez que dans ce chapitre que vous allez étudier, il est ce chapitre, s'appelle l'évangile de la création. Et il est tout entier consacré à exposer les ressources bibliques, théologiques dont dispose la tradition chrétienne pour avancer sur ce sujet de l'écologie. D'autres enjeux encore de cette question, évidemment dans le domaine de la recherche et de la technique. On voit bien qu'il y a des scientifiques qui sont parfois dépassés par la façon dont sont appliquées leurs recherches. Ou parfois qu'elles prennent... Elles prennent un cours qui désapprouve. C'est déjà la question évoquée l'autre fois des limites. Jusqu'où on va ? Une question omniprésente aujourd'hui. Jusqu'où on peut aller ? Donc, vous voyez, dans tous ces débats qui nous attendent, eh bien, une bonne théologie de la création ne va pas nous donner les réponses, mais elle ne peut que nous aider à penser. Voilà. Alors, je vous dis un petit mot de bibliographie. Alors, dans les ouvrages que je vous avais donnés l'autre fois, qui étaient des ouvrages généraux, il y en a beaucoup qui ont un chapitre sur la création, que vous pouvez aller regarder. Là, je vous donne une bibliographie pour les deux cours à venir. Jacques Arnoux, dominicain. Alors, attendez, non, je vais repartager parce que là, pour le coup... plus partager...
Jacques Arnoux, oui, Dieu, le singe et le Big Bang.
Alors voilà, Jacques Arnoux, Dieu, le singe et le Big Bang, c'est un petit livre, ça se lit très bien, Darwin, Teilhard, le créationnisme, les rapports entre science et foi, donc si vous vous intéressez à ces sujets, c'est bien. Justement, lui, c'est un scientifique, justement, il a écrit plein d'autres ouvrages. Celui-là, il est de 2000. Paul Beauchamp, donc là, c'est plus un scientifique, c'est un bibliste, grand bibliste. C'est un bon livre pour aider à entrer dans la Bible, et notamment il a un développement très intéressant sur le récit de Genèse 2 qu'on va voir tout à l'heure, notamment toute la question de l'animalité qui est présente en l'homme, la maîtrise du monde par la douceur, etc. Développement sur l'image aussi. François Cheng, je vous mets pas que de la théologie, il faut se détendre de temps en temps. Donc Assise, une rencontre inattendue. Donc lui, vous savez, c'est un écrivain d'origine chinoise, mais qui a été baptisé, et c'est sa rencontre avec François d'Assise. Et il y a vraiment un portrait formidable de saint François d'Assise, des pages très belles sur son rapport à la création, sur le cantique des créatures. Voilà, s'il y a un saint qui peut être emblématique d'un rapport, fraternel à la création, c'est vraiment lui. Emmanuel Durand, je ne l'ai pas mis sur les images. Ça, c'est un livre, si vraiment vous voulez rentrer dans quelque chose d'un peu plus complexe, mais c'est vraiment un très bon théologien d'aujourd'hui, mais c'est compliqué. C'est une collection qui est compliquée, Cogitatio Fidei, c'est une collection de recherche, donc c'est un peu les derniers développements, mais bon, c'est très intéressant, mais qui est difficile. François Heuvé, La science, l'épreuve de Dieu. Je ne l'ai pas mis là, il faudrait que je le rajoute. Oui. C'est ce que je vous recommanderais en premier, parce que c'est le plus récent. Il est paru l'année dernière en réponse au best-seller de Bolloré et Bonassis sur Dieu à l'épreuve de la science. Donc là, c'est eux, et voilà, ça s'est vendu des centaines de milliers de l'histoire de la recherche scientifique, notamment sur l'origine du monde, et ils disent on arrive à des choses tellement précises maintenant que tout juste si on n'avait pas une preuve de l'existence de Dieu, il n'y a pas de hasard possible quand on arrive à ces performants, à ces résultats-là.
Et c'est lui, quoi le titre de ce livre dont vous nous parlez? C'est pas Darwin et le christianisme?
Non, c'est La science, virgule, l'épreuve de Dieu. Dans le document de bibliographie, c'est celui qui vient en premier. C'est vraiment très bien. Très intéressant sur la question du commencement de l'univers. Darwin et le christianisme, vrai et faux débat. Donc toujours pareil, les rapports entre science et foi. Mais il écrit simplement, c'est agréable. François Laudato si, sur la sauvegarde de la maison commune. Je vous ai remis Guéché, la fameuse collection dont je vous ai parlé, Dieu pour penser. Il y a un tome sur le cosmos. Ça fait voilà, c'est 200 pages, ce n'est pas des trop grosses choses. Voilà, comment repenser le rapport au cosmos, et pas simplement en termes de maîtrise. Pierre Grelot, Homme qui es-tu, c'est un peu ancien, mais la collection est très intéressante, si vous ne la connaissez pas, les cahiers évangiles. C'est des cahiers très, très pédagogiques, avec des encarts, c'est très bien traité, et là, c'est une réflexion d'un bibliste sur les 11 premiers chapitres de la Genèse. Jean d'Ormesson, c'est quasiment ces deux derniers livres, les deux derniers, je crois, parce que c'est bien écrit, sur la question de Dieu, de l'origine, du rien et du tout. Mais c'est tout petit, et 120 pages et quelques, et voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait des réflexions qui étaient vraiment très bien tournées, qui rejoignent ce qu'on dit. Anne-Marie Pelletier, grande bibliste, lecture biblique, très accessible. Le but d'Anne-Marie, c'est de reprendre une vingtaine de grands textes bibliques de l'Ancien Testament et de rouvrir leur sens alors qu'aujourd'hui, on n'en est plus du tout familier. Et puis, Wénin, formidable. Wénin, c'est vraiment génial. Réflexion anthropologique à partir de lecture biblique. C'est un grand bibliste qui est vivant et qui prend le texte pendant des années en Bible. On a travaillé avec de l'historico-critique, c'est-à-dire essayer de retrouver comment les textes se sont formés, les différentes couches de rédaction, quelque chose d'assez technique, qui est indispensable à faire en Bible. Mais lui, il dit qu'il faut aussi retrouver le sens du récit, donc prendre le texte dans son ensemble tel qu'il nous arrive, et c'est au lecteur aussi d'en faire émerger le sens, de participer à l'élaboration du sens. Et là, les deux livres sont très très bien sur les premiers chapitres de la Genèse. L'homme biblique et d'Adam à Abraham ou des errances de l'humain. Formidable. J'ai rajouté dans la bibliographie un livre que je n'ai pas lu, mais qu'on vient de me conseiller, Plou et De Terre, Dieu créateur. C'est un livre de cette dernière. Je ne l'ai pas lu, mais Plou, il y a un livre de lui dans la bibliothèque du CIF qui s'appelle... Dieu n'est pas ce que nous croyons. Tout petit livre que j'avais trouvé formidable. Donc, je pense qu'il écrit bien. C'est un prêtre de la Mission de France. Mais bon, je ne l'ai pas lu. Et puis, je vous ai remis Cesboué, l'homme merveille de Dieu, parce que c'est toujours bien, Cesboué. Voilà. Ça va ?
C'est beaucoup de lecture.
Oui, voilà. Et puis, si vous avez des sujets qui vous intéressent plus particulièrement... vous pouvez me dire, peut-être que je peux vous aiguiller voilà, sur d'autres choses. J'essaye de mettre un peu de Bible, un peu de réflexion biblique, un peu de réflexion théologique, puis un peu de littérature pour voilà, un autre biais. Alors, Donc, on en arrive à notre première partie, la lecture de Genèse 2. Donc, voilà, on ouvre le dossier biblique. On est clair que le concept de création, c'est un concept biblique. Nous, on va parler en termes de nature, de... c'est un concept qui est biblique. Et on est d'accord aussi que malgré toutes nos divisions, on est d'accord chez les chrétiens sur la notion d'un Dieu créateur. Le Dieu de la Bible est un Dieu créateur. Ce qu'on va voir à travers ces textes, c'est comment est-ce que la Bible parle de ça. Et je vous fais remarquer une première chose, c'est que la Bible s'ouvre par deux récits de la création, qui sont très différents, mais qui ont été juxtaposés par le rédacteur final, qui n'est pas anodin. Ces deux récits appartiennent au livre de la Genèse. Genèse, c'est un mot qui vient du grec, Genesis, traduction du mot hébreu Bereshit, qui est le premier mot de la Bible, qui signifie origine, commencement. Donc le livre de la Genèse entend nous dire ce qu'ont été les commencements, la création, les débuts de l'humanité. C'est dans ce livre que vous trouvez aussi l'histoire du déluge, de Babel, d'Abraham, etc. Le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Ce n'est pas le plus ancien, dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre de lecture, c'est le premier de la Bible. C'est le début d'une histoire. Et ce livre fait partie d'un ensemble qu'on appelle le Pentateuque. Si vous vous rappelez un peu de la journée de Roselyne sur l'Ancien Testament, le Pentateuque, ça veut dire cinq rouleaux en grec. Le Pentateuque, chez les Juifs, c'est la Torah, ce que les Juifs appellent la Torah. Ce sont les cinq premiers livres de la Bible. Et ce Pentateuque recueille des textes qui se sont transmis au fil des siècles, les plus anciens remontant pratiquement jusqu'au 18e siècle avant Jésus-Christ, beaucoup qui datent de l'exil. Et puis, voilà, donc c'est tout un processus. Et on pense que après l'exil, tous ces textes ont... Vous voyez, on est 6e siècle avant Jésus-Christ, les textes ont à peu près trouvé leur forme, mais il va falloir mettre au point le texte final de la Torah. Et là, il va falloir encore un peu de temps, et il va falloir négocier entre des sensibilités religieuses différentes, des courants théologiques, faire des compromis. Tout ça continue à avancer doucement, et vers 400 avant Jésus-Christ, si ça vous dit quelque chose chez Roselyne, à l'époque du scribe prêtre Esdras, on arrive au bout du processus. Et on est devant la Torah telle qu'on l'a aujourd'hui. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Que les rédacteurs finaux ont pris ces deux récits de la création, qui n'ont pas été rédigés à la même époque, ne sont pas issus de la même tradition, et ils les ont placés tous les deux en tête de la Torah. Deux récits. Qu'est-ce que ça vous évoque, deux récits? Ben, ça veut dire que d'emblée, il va falloir interpréter. On ne peut pas prendre le texte au pied de la lettre puisque déjà, il ne raconte pas la création de la même façon. Et en tête de la Bible, ça, c'est une volonté, c'est un acte théologique très fort qui montre que le rapport de création, de créateur à créature, va structurer tout le reste. Ce qu'ils nous disent de la compréhension des origines va éclairer l'ensemble des Écritures qui suivent. Alors, on va commencer par les lire attentivement. Et on commence par Genèse 2. Pourquoi? Parce que c'est vraisemblablement le récit le plus ancien. Peut-être écrit environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Cela dit, la question des dates, des auteurs, ça reste une question extrêmement difficile et très débattue. Encore plus pour Genèse 2 que pour Genèse 1. Alors, le Pentateuque, voilà, vous voyez, Genèse... J'ai mis dans le mauvais ordre, mais Genèse droite, voilà. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ça, c'est le Pentateuque, c'est la Torah des Juifs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien lire le texte, s'il vous plaît?
Vous voulez, moi, je veux bien.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs et aucune herbe des champs. Aucune herbe des champs n'avait encore germé car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, il se partageait pour former quatre bras. L'un d'eux s'appelait Pishon. C'est lui qui entoure tout le pays de la villa où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon. C'est lui qui entoure tout le pays de Cush. Le troisième fleuve s'appelait Tigre. Il coule à l'Orient d'Assour. Le quatrième fleuve, c'était l'Euphrate.
Mais j'essaye de... Voilà.
Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme, « Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. » Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon d'être pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. » Le Seigneur Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignerait. Tout ce que désigna l'homme avait pour nom « être vivant ». L'homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs, mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu fit tomber dans une torpeur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma les chairs à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme et une femme en une femme qu'il lui amena. L'homme s'écria, « Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. » Aussi, l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviennent une seule chair. Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte.
Voilà, merci beaucoup. Donc, vous voyez, dans ce texte, on voit que Dieu, le Seigneur Dieu, comme il est dit, place un monde. C'est vraiment un récit de création. Et dans le chapitre suivant, chapitre 3, on ne parle plus de la création, mais d'un problème qui va surgir. Ça, ce sera pour après. Alors, je prends dans le plan, si vous voulez suivre dessus.
Moi, j'ai une petite question. Oui. Je suis dans ma Bible de Jérusalem et je cherche le texte.
Ah ben oui, parce que c'est la traduction de la Tob. Alors, dans la Bible de Jérusalem, vous allez, dès le début, le livre de la Genèse, ça sera le premier livre, et vous allez au chapitre 2. Quand on met GN 2, GN c'est Genèse, on le met en abrégé, hein. GN, Genèse, 2 c'est le chapitre, chapitre 2. Mais ce n'est pas la même traduction. La traduction de la BJ, la Bible de Jérusalem, elle est plus littéraire, elle est belle, hein, elle est plus littéraire. Mais la Tob, j'ai choisi celle-là parce que c'est celle qu'on a en commun avec tous les autres chrétiens. Et vous avez encore une troisième traduction, qui est la traduction liturgique, celle que vous entendez le dimanche à la messe, qui est plus simplifié parce que c'est une traduction faite pour être proclamée.
Mais quand on est en deux, Genèse 2, là, dans la Bible de Jérusalem, on est ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Au septième jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait. Voilà, et le septième jour, il chôma.
Regarde, alors,
après tout l'ouvrage qu'il avait fait, Dieu bénit le septième jour. Donc quand je prends Genèse 2,
non, si Genèse 2 et après, virgule 4.
Ah, pardon. Alors, Genèse 2, 4, c'est là que je me dis que j'ai plus des très bons yeux. Hop, c'est écrit petit. 2, 1. Je ne vois pas assez bien.
Si vous prenez, vous voyez le texte que je vous ai mis dans le plan, ça commence à 4b. Donc, Genèse 2, chapitre 2. Ensuite, c'est le verset.
Donc, autant 4. La formation de l'homme et la femme, c'est la sexe et de la femme.
Non. Non.
Ben, ça commence en 2-4B, c'est...
Si, c'est ça. Anne, ça s'appelle... oui, moi, j'ai pareil, j'ai la Bible de Jérusalem, la ouais. formation de l'homme et de la femme, et ça commence juste après.
Au temps où il y avait Dieu, fit, la terre voilà. et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre.
Voilà, voilà. Ben, c'est la oui. même. Ça commence là.
Ok. Donc, en fait, ça, c'est la version 2, quelque part, en 4B, qui démarre, de ces Genèse 2 dans la Torah.
Exactement. Non, c'est Genèse 2, le récit de Genèse 2, mais je devrais dire le récit qui commence en Genèse 2, verset 4, dans la version de la Bible de Jérusalem. Et moi, ce que je vous ai mis dans les documents...
Ok, bah, c'est clair, en fait, sur le... Ouais. Merci de la tombe. Voilà. Sur ce que vous aviez mis, Aude, c'est Genèse 2, 4B à, 20, à 25. Ouais. Ok, pardon.
Alors, première réflexion sur le paragraphe sur le mythe. Ça, c'est ce qu'on appelle un texte de sagesse. Alors, la littérature de sagesse, vous entendrez peut-être le mot aussi de sapientiel, ça veut dire la même chose, c'est un genre littéraire qui est très très répandu dans le Moyen-Orient ancien. Parce que c'est une littérature qui s'intéresse aux grandes questions de la vie, la signification du monde, la présence de l'homme, etc. Et ça, c'est tout un mouvement de pensée qui est porté par les sages et qui s'épanouit à la cour des rois dans les grandes civilisations, en Mésopotamie, en Égypte, sous Pharaon. Je crois que j'ai mis une carte, voilà. Vous voyez, en Mésopotamie, l'Égypte est là, Israël est là. Bah, partout, dans ces grands empires, avec des empereurs, avec Pharaon en Égypte, avec des rois en Mésopotamie, il y a cette littérature de sagesse. Et on la trouve aussi dans le peuple d'Israël, tout particulièrement sous David et Salomon. Cette littérature de sagesse d'Israël, elle est forcément en dialogue avec la pensée des autres. Il y a des échanges. Mais en même temps, elle se développe sur le fond de la propre histoire du peuple. Ce qui va lui donner, vous allez voir, une couleur particulière. Donc Genèse 2, le récit de Genèse 2, il appartient à ce registre de la littérature sapientielle. Vous voyez que ce qui est visé ici, c'est l'origine. Qu'est-ce que c'est que l'origine? Eh bien, par excellence, c'est ce qui échappe à l'expérience. Et c'est ce qu'on n'a pas dans notre mémoire. Personne ne peut parler en témoin des débuts. Ça nous échappe. Et pourtant, on a besoin d'en savoir quelque chose pour comprendre d'où on vient, pour nous connaître. Et du coup, pour dire quelque chose d'une origine qui nous échappe, les hommes de l'Antiquité ont eu recours à un autre type de langage que le langage ordinaire. Ils ont eu recours à un discours aux propriétés très particulières qui s'appelle le mythe. Et là, on est devant un récit de ce type, un récit mythique. Aujourd'hui, dans le langage courant, un mythe, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Mais en réalité, primitivement, c'est un récit qui a un sens au contraire extrêmement profond. Et un savant comme Mircea Eliade, dont je vous ai parlé l'autre fois, c'est quelqu'un qui a consacré une grande part de sa vie à travailler sur les mythes et qui a montré la richesse de ces mythes et à quel point c'était une littérature qui pouvait être efficace pour dire les choses. Le mythe recherche une intelligibilité globale aux choses. Il cherche le sens de l'ordre des choses, comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Et donc, il a sa logique propre. Il raconte une histoire où il va mettre en scène des hommes et des dieux, et en s'installant hors du temps. Et il nous raconte comment les choses ont commencé à être, et comment surtout les choses de l'origine font que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Donc vous voyez, le mythe proclame ce qui s'est passé à l'origine, dans un temps primordial, qui est un temps sans temps, en fait. Origine, ça dit plus que commencement. Hein. Le commencement, c'est le démarrage, c'est le point de départ. Mais l'origine, ça dit beaucoup plus, parce que dans l'origine, il y a l'idée d'un sens, du but de ce commencement, le dessin dans lequel ce commencement émerge. Donc le mythe ne restitue pas des faits au sens où on dira que l'histoire raconte des faits. Ce n'est pas un langage réaliste, c'est plutôt un langage de l'ordre du symbole dans le but d'élaborer des significations. Voilà. Le mythe, c'est ce qui propose une réponse aux énigmes du monde. C'est un peu la philosophie de l'époque quand on n'était pas encore passé à la pensée scientifique. Et donc ces civilisations-là produisent énormément de mythes. Et ça, on le sait parce que l'archéologie nous a permis de retrouver, par exemple, les bibliothèques de Mésopotamie. Et pour vous en citer juste quelques-uns, bah, par exemple, l'épopée de Gilgamesh, si ça vous dit quelque chose, un récit babylonien, plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, le poème de l'Enuma Elish, Voilà, là vous avez un fragment de tablette de l'Enuma Elish. Le mythe d'Atrasis, si ça vous dit quelque chose. C'est toujours des grands récits d'origine qui nous disent comment le monde et la condition humaine ont été engendrés. Et alors on trouve toutes les hypothèses possibles et inimaginables. Tout a été essayé pour essayer de rendre compte de l'ordre des choses. Et donc la Bible a puisé dans ce fond très ancien de sagesse qui raconte la création. C'est vraiment important de savoir ça. C'est que Israël n'a pas tout inventé à partir de lui-même. Non, il emprunte à ses voisins des matériaux, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va les reconfigurer, les réinterpréter, d'une manière qui va devenir son patrimoine propre, au service de sa propre vision de Dieu et de l'homme. Et cette vision, ce n'est pas du tout la même que celle de ses voisins. Donc on retrouve des motifs, par exemple, on va retrouver le motif de l'eau, vous allez voir, le motif de la création d'un homme avec de l'argile, le motif de la création d'un homme qui est un chef-d'œuvre, mais ça va servir à dire des choses qui ne sont pas forcément dites ailleurs. Par exemple, dans le mythe de l'Enuma Elish, là dont vous voyez la tablette, pourquoi est-ce que les hommes sont créés ? Pour être utiles aux dieux, parce qu'ils ont besoin de travailleurs, parce que les petits dieux ne veulent plus faire les basses tâches. Du coup, on va créer un homme pour s'en occuper. Et donc, on comprend que la vie pénible de l'homme, c'est le fait d'une volonté extérieure. Il est soumis à une fatalité contre laquelle il ne peut rien. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire en Genèse 2, où le récit fait de l'homme un gérant auquel un jardin est confié qui peut jouir de tous les arbres qu'il contient. Donc, il y a des points de contact entre les récits, mais en même temps, un vrai contraste. C'est une manière pour Israël de prendre parti contre les mythologies de ses voisins. Alors, on va voir quelques caractéristiques de ce récit. Est-ce que vous avez le texte dans les yeux ? Vous voulez que je repartage l'écran avec le texte ? Qu'est-ce que vous préférez ? Soit je ferme et on voit tout le monde, soit je reviens là, si vous voulez. Vous préférez qu'on voit le texte ensemble, comme ça ?
Oui, le texte.
Le texte, ok. Alors, donc vous voyez que tout commence dans un espace originel, que plutôt qualifié négativement une terre vide, où rien n'a germé, sans plantes, sans hommes. Il y a un flot quand même, le flot d'eau, possibilité d'une vie à venir. Et c'est là qu'il est question d'un Dieu créateur qu'on appelle le Seigneur Dieu. Dans la Tob, ça sera toujours écrit comme ça, le Seigneur en majuscule. Ça, c'est la traduction du tétragramme sacré Yahweh, YHWH, quatre consonnes qui représentent le nom de Dieu, qu'on n'a pas le droit de prononcer dans la tradition juive, par respect pour la sainteté de Dieu. Et quand on les vocalise, parce qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelle, quand on les vocalise, elles donnent le nom de Yahvé. Et donc, on voit que l'initiative de la création, dans ce récit, elle vient de lui, le Seigneur Dieu. Le monde et l'humanité se reçoivent d'un autre, se reçoivent d'un Dieu qui les précède. Au sein de ce temps initial, on nous dit très vite, verset 7, on arrive très vite au moment de la création de l'homme, dont on nous dit qu'il est formé avec la poussière du sol. L'homme, en hébreu, c'est Adam. Mais Adam, ce n'est pas Monsieur Adam, ce n'est pas un nom propre, ce n'est pas son prénom. C'est un terme générique. Il est employé avec un article, c'est l'Adam. Donc l'Adam, ça désigne une figure dont la portée se veut universelle. C'est l'homme, l'être humain en général. Alors là, pour nous, en français, on est confronté à une difficulté de traduction. Parce que Adam, ça vient du mot Adama, en hébreu, qui veut dire la terre. Donc c'est celui qui a été fait, formé, à l'aide de la terre, de la poussière du sol. Et si on devait vraiment traduire, bien, on devrait dire le terreux ou le glaiseux. Yali Chouraki dit le glaibeux. Or, la plupart des Bibles en français, elles disent l'homme. Alors, on peut dire humain, ça nous fait penser à humus, peut-être. Mais ce n'est pas très juste de traduire Adam par homme. Mais on ne sait pas tellement dire autrement, en fait. Autre difficulté en français, c'est qu'il y a une confusion avec l'homme, le masculin. Or, l'apparition de l'homme au sens masculin, on va bien la voir dans le texte, mais plus tard. Au début du récit, l'être qui est modelé à l'aide de la poussière du sol n'est pas sexué. Alors pour nous, évidemment, c'est déjà compliqué de penser une réalité qui est liée à l'humain, mais qui ne soit pas sexuée, pas facile à concevoir. Mais c'est ce que nous dit le texte. On voit que l'homme tient à la fois de l'animal et de Dieu, parce qu'il est modelé par Dieu, comme le seront les autres animaux, mais c'est le seul à recevoir l'haleine de vie. Il insuffla dans ses narines, verset 7, l'haleine de vie. Et l'homme devient un être vivant. Voilà. Donc, il tient de l'animal, mais il est différent déjà. Donc, l'homme modèle l'homme, Dieu modèle l'homme, et là apparaît le jardin. Le Seigneur plante un jardin. Il lui donne à cet homme un lieu propre, délimité, un jardin qui est longuement décrit entre le verset 8 et le verset 14, avec une mention spéciale. Oh, pardon, à chaque fois, excusez-moi. Voilà. Avec une mention spéciale pour deux arbres. On reviendra sur ces deux arbres. Un jardin, c'est bien, hein, dans un contexte où on écrit, on est plutôt dans une région désertique, l'eau est très précieuse, on rêve d'oasis et de jardin, c'est bien. Ce jardin, planté en Éden, Éden en hébreu, ça veut dire jouissance, est vraiment conçu comme un paradis, ça sera la traduction dans la Septante, la version grecque de la Bible, un paradis conçu comme vraiment comme un lieu de paix et de délices. Ensuite, le Seigneur Dieu fixe à l'homme une tâche, celle de cultiver et de garder le jardin, verset 15. Et puis il lui donne en nourriture tous les arbres, à l'exception d'un seul, verset 17, celui de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Donc ce jardin est fait pour l'homme. Il en a la charge pour le cultiver et le garder. Ça sera très important de s'en souvenir. C'est sa mission. Donc d'abord le don. Il faut bien voir ça. D'abord, le don du jardin. Et puis ensuite, le commandement. Verset 17. Don plus commandement, c'est la structure fondamentale de l'alliance dans la Bible. Dieu donne. Toujours Dieu commence par donner. Et en même temps, il donne, on pourrait dire, comme le mode d'emploi du don. Et ce mode d'emploi, il est forcément limitatif. La loi, c'est comme le mode d'emploi du don. Regardez ce qui s'est passé au Sinaï à la libération d'Égypte. Dieu les fait sortir et ensuite il leur donne la loi qui va leur permettre de comprendre comment vivre cette alliance. Je donne un exemple, celui de la clé de votre maison que vous donnez pour la première fois à un enfant. Vous donnez la clé et vous l'accompagnez d'un commandement, ne la perds pas. C'est le mode d'emploi. Et vous remarquerez que la loi, on dit oh bah oui c'est négatif, mais en fait que ce soit négatif, c'est beaucoup mieux. Parce que à un enfant, il vaut mieux dire ne mets pas tes doigts dans la prise que de dire fais ça. Ne mets pas les doigts dans la prise, mais tu peux faire tout le reste. Donc en fait, le commandement négatif, il donne un périmètre à la liberté. Le commandement positif est plus oppressif. Fais ci, fais ça. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on interprète ce commandement ? L'interdiction de manger de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a eu différentes interprétations possibles. Je vous en donne une. C'est que, en hébreu, quand on accole les deux opposés d'une réalité, ça veut signifier une totalité. Donc, la connaissance du bien et du mal, ça veut dire la connaissance de tout. Comme quand nous, on dit, le navire a fait naufrage corps et bien, c'est tout. Or, qui a la connaissance de tout ? C'est Dieu, Dieu seul. Donc, vouloir manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vouloir cette connaissance totale, signifie pour l'homme se prendre pour Dieu. C'est vouloir prendre sa place. Donc, peut-être faut-il entendre cette interdiction comme une invitation faite à l'homme d'accepter son statut de créature, d'accepter de se recevoir d'un don premier. C'est une manière de le situer comme créature. Du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Donc, ça nous parle de la vie, ça nous parle aussi de la mort. Elle est présente là, comme en suspens, comme une possibilité. Mais malgré tout, la finitude humaine est signifiée. L'homme ne peut pas tout faire, sinon il se heurte à la mort. Comment est-ce qu'on doit le prendre? Une menace, une mise en garde, un conseil, à nouveau une place pour l'interprétation. Et puis à partir du motif de la solitude d'Adam, vous voyez, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, va se développer le récit de deux nouvelles créations.
J'avais une petite remarque,
bien sûr.
Si possible. Juste, on a évoqué la notion de périmètre, mais précisément, je trouve que cet arbre interdit est caché au milieu de l'Éden sans qu'il y ait aucun périmètre marqué, qu'il n'y ait aucune clôture, qu'il n'y ait rien du tout. Je trouve ça assez étonnant, en fait. Il n'y a pas de garde-fou.
Il y a une limite qui est donnée au don, qui est tu ne mangeras pas de cet arbre-là.
Il n'y a pas de précaution prise, quoi. Enfin, c'est comme si le mal, il est à portée de main et ce n'est pas tellement indiqué, attention, danger.
Ben, on te dit quand même, si tu en manges, tu mourras.
Oui, mais ce que je voulais manifester par là, c'est que c'est un peu comme dans la vie. Finalement, le mal n'est pas toujours très clairement identifié. Il n'y a pas de barrière qui te dise n'entre pas. Fondamentalement, il y a beaucoup de domaines desquels il faut se méfier. Et qui ne sont pas forcément avec une grosse pancarte, attention, mal, mauvais. Et c'est un peu pareil dans le jardin d'Éden, il y a un arbre, il ne faut pas y toucher, mais il n'a pas mis une grosse clôture autour en disant n'y va pas.
Ben non, c'est vrai. Mais alors, vous allez voir, les arbres, on va énormément y revenir. On va revenir sur Genèse 3, où il y a vraiment les deux arbres, dans le cours sur le péché. Mais là, à ce stade, vous voyez, il n'y a pas de mal. Hein. La création, elle est vraiment bonne. On donne tout, tu peux manger à tout. Juste une mise en garde. Ne mange pas de cet arbre-là, sinon tu devras mourir. Mais c'est assez précis, hein, justement, comme commandement. On va voir où tout se corse. C'est dans la manière dont on va, mais là j'anticipe, c'est dans la manière dont ils vont interpréter ce commandement. Est-ce que c'est un commandement pour restreindre la liberté de l'homme? Est-ce que c'est le commandement d'un Dieu jaloux de sa puissance? Est-ce que c'est qu'il ne veut pas que les hommes soient comme des dieux? Mais ça, on y reviendra après. Mais c'est vrai qu'il va y avoir une ambiguïté qui va se créer. Mais elle n'est pas du fait de Dieu. Du fait de Dieu, c'est extrêmement clair. Je te donne tout, cultive ce jardin, garde-le, c'est un beau jardin, tout est bon, tout est beau. Mais ne mange pas de cet arbre. Et alors, vous voyez qu'à partir de là, ça va ?
Très bien.
Et donc, vous voyez, là, on nous dit tout d'un coup que l'homme est seul et que ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et donc, on a deux nouveaux récits de création, de nouveaux épisodes de création, la création des animaux et puis celle de la femme. Donc la première parole, vous voyez, elle est divine hein, dans ce texte. La première parole, elle vient de Dieu. Je vous fais remarquer que la création des animaux, ici, elle est rapportée à une nécessité. Elle est liée à un besoin de l'homme. L'homme, il a été créé gratuitement. Là, c'est pour que l'homme ne soit pas seul, pour rompre sa solitude. Et puis, on voit aussi qu'une fois qu'ils sont créés, ils sont amenés à l'homme pour en recevoir un nom. Alors, l'homme voit défiler devant lui toute la panoplie des animaux, ou le zoo, mais le texte nous dit ils n'ont pas le pouvoir d'être pour lui l'aide dont il a besoin. Rien ne lui convient. Aucun de ces êtres vivants ne lui ressemble. Et c'est alors la création de la femme.
Si l'homme, en effet, est créé au masculin, enfin, n'est pas créé au masculin, s'il n'a pas de sexe, d'où vient la femme, là, tout d'un coup? Pourquoi
on y arrive. Là, on est encore à Adam. On est tout le temps à Adam. Adam, le glébeux.
On est encore dans le glébeux, d'accord.
Là, on est dans le glébeux, Adam. Et donc, là, il y a une torpeur qui tombe sur l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être tout simplement ce qu'on disait tout à l'heure, que ce sommeil profond signifie que les origines nous échappent, comme on n'est pas témoin de sa propre naissance, on ne peut pas être témoin du surgissement du monde, que ces grandes œuvres du Dieu de création échappent à nos prises. On nous dit simplement que la femme, verset 22, est prise de sa côte, en hébreu ce serait plutôt de son côté, dans la tradition juive, plutôt de son côté, c'est le même mot. Et avec ce matériau, Dieu crée, mais une femme cette fois. Une femme, donc, qui est faite de la même substance, puisqu'elle est faite de sa chair, du plus intime que lui. Et le nom donné à la femme, c'est Isha. on l'appellera femme, Isha, I-S-H-A, car c'est de l'homme, Ish, Adam disparaît, et Ish apparaît, I-S-H. On l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Ainsi, pour que l'homme, Ish, existe, la femme, Isha, doit exister. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Beaucoup de ressemblances, Ish, Isha, et une petite différence, un petit A, qui fait toute la proximité et toute la différence entre l'un et l'autre. Un philosophe comme Emmanuel Lévinas dira une petite différence avec un A entre les deux. Ish ne s'y trompe pas, puisqu'il s'écrit au verset 23, « Ah, voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. » Ce qu'il avait pu ne dire d'aucun des animaux. On nous dit que la femme lui est une aide. C'est quelques versets après.
Donc la femme a été faite pour aider l'homme, alors que l'homme a été fait gratuitement.
Je termine pour l'aide. Mot « ézer » en hébreu, E-Z-E-R. Et « ézer », en hébreu, ça désigne dans le langage biblique, ça désigne absolument pas un auxiliaire subalterne. C'est le recours vital que seul Dieu peut donner. C'est un mot du vocabulaire liturgique qui désigne l'aide d'origine divine, celle qui est nécessaire dans les situations de péril, quand la vie même est menacée. C'est le même mot que quand on dit à Dieu dans les psaumes « viens à mon aide ». Donc, avec la femme, ce qui est donné à l'homme, c'est comme le vis-à-vis vital dont il est en quête. C'est l'aide en face de lui qui lui répond et qui l'empêche de s'abîmer dans un isolement qui est finalement stérile et mortel. Donc là, on est au contraire devant une égalité préalable absolue, mais dans la différence. Bertrand, t'entends pas ?
Il aurait pu les créer simultanément, les deux êtres, plutôt que de faire dans un ordre.
Alors, donc on n'en est pas dans du réaliste. On nous dit, les auteurs, ben voilà. Mais donc du coup, les auteurs essayent de nous dire, et vous allez voir le deuxième texte, c'est ça qui serait intéressant, de voir où sont les rapprochements, parce qu'ils sont extrêmement différents ces textes. Est-ce qu'il y a des rapprochements ? Ce qu'on nous dit, c'est que Dieu crée l'Adam en premier, gratuitement, et que cet Adam ne se suffit pas à lui-même. Et qu'à partir d'Adam est créé, pris de lui-même, de sa même substance, une femme, et à partir de là, Adam s'appelle Ish et la femme Isha. Donc les exégètes aujourd'hui, surtout qu'on est dans des, tu vois, dans des débats sur l'égalité, sur la place des femmes, etc., la plupart te disent qu'on est dans une égalité absolue, mais sans égalitarisme. Une égalité dans la différence, même substance. Vous remarquez qu'on voit aussi apparaître le langage humain. Verset 23, quand l'homme s'écrit, voici cette fois l'os de mes os. Alors d'abord, on nous a dit qu'il a donné des noms aux animaux, qui est un signe d'autorité déjà. Mais là, on le voit qu'il parle voilà, au moment où Dieu lui amène la femme. C'est pour la première fois où un « je » se met à parler dans la Bible. Vous remarquez qu'on n'est pas encore dans le registre du dialogue. Mais l'homme s'exclame et il dit son admiration, en quelque sorte, pour celle qui lui est semblable, puisqu'elle est tirée de sa chair, tout en étant une autre. Et là, je fais remarquer quelque chose. Cette phrase, « voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair », admiration, émerveillement, mais aussi zone grise. Car on peut très bien entendre ces mots comme la tentation déjà de mettre la main sur la femme, de passer de l'émerveillement à l'appropriation, ma chair, mes os, et même à une certaine forme de violence. Vouloir mettre la main sur l'autre au lieu de le contempler, de se réjouir de sa présence pour ce qu'elle est. Ici, le « ish » ne parle pas à Isha. Vous savez qui est le premier qui parlera à Isha, qui lui adressera la parole.
C'est le serpent.
Le serpent, c'est pas l'homme. Le premier qui parlera à Isha, c'est le serpent. Et donc quelqu'un comme Emmanuel Durand, comme plein d'autres, font remarquer le difficile apprentissage de la reconnaissance, le difficile apprentissage de la singularité qui est en relation. À tel point que Durand, qui n'est pas un rigolo, hein, il parle de l'homme du Jardin d'Éden comme d'un adolescent complètement autoréférencé. Ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai lu ça. Donc, vous voyez, le paradis, voilà, bah dans le paradis, il y a déjà des petites zones où on se dit, on est devant une histoire, il va falloir mettre en place un certain nombre de choses. Et dans les livres d'André Ouélin, si vous les lisez, c'est vraiment passionnant à lire, vous verrez la place de la convoitise, la place du pouvoir qui est inhérent à toute relation humaine. Hein, voilà. Et puis, on nous dit... On dit qu'ils deviennent une seule chair ou qu'ils feront une seule chair. Il y a une unité originaire, Adam, à partir de laquelle se fait une différenciation entre l'homme et la femme, Ishe Isha. Mais cette différence, elle est vouée à quoi ? À recréer une autre unité qui sera une seule chair issue de leur couple. Ils sont destinés à se retrouver, pas à confondre leur chair, mais à se rencontrer et à se communier pour devenir une seule chair. À nouveau devenir, vous voyez, l'histoire. Alors, une seule chair, bah, ça peut être l'enfant qui naîtra des deux. Une seule chair, ça peut être l'union des corps. Une seule chair, ça peut être aussi pour dire une seule destinée, une solidarité aussi grande et même plus grande que les liens du sang. Puisqu'il s'agira pour l'homme de laisser son père et sa mère. Voilà, intéressant, hein, laisser son père et sa mère pour le premier couple qui n'a pas de père et de mère. Voilà. Pour dire la force des liens du sang. La force des liens choisis, de la relation. Voilà. Et puis, on termine par une petite parole sur la nudité, qui n'est pas inintéressante, pour dire qu'il n'y a pas de mal à ce stade-là. La nudité, c'est le symbole de la fragilité. Ça pose pas de problème, il n'y a pas de peur entre l'un et l'autre, ni devant Dieu, pas de motif d'inquiétude. Leur vulnérabilité n'est pas un motif d'inquiétude. Conclusion, je dirais que, qu'est-ce qu'on voit là ? On voit, pardon, excusez-moi, oula. Pardon. Oula, ouais, attendez, je suis perdue, voilà, bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion ? Vous voyez vraiment, c'est que l'homme apparaît au cœur d'un réseau de relations. Donc, c'est vraiment la chose à retenir. Avec Dieu, déjà, qu'il crée, qu'il lui donne un commandement, qu'il dialogue avec lui, qu'il lui confie le jardin. Avec le monde, ce jardin dont il doit prendre soin. Avec les animaux, ces animaux dont il est à la fois proche et en même temps dont il se différencie. Avec la femme, l'autre que lui. On est des êtres en relation. C'est ça que nous dit le texte, et que ça va être important de prendre soin de ces relations. Et ça, c'est évidemment, on voit que ça nous parle encore aujourd'hui. Les crises qu'on traverse, pour une part, c'est des crises de relations. Relations avec notre monde, relations avec nos voisins. Que la réponse, elle passera sans doute par un acte d'imagination dans lequel il faudra régénérer ces relations pour bâtir un monde plus juste. Voilà, une lecture rapide, mais qui met en exergue déjà quelques points remarquables. Est-ce que vous avez envie de réagir à déjà certaines choses ou...
Je réagirais bien parce que...
Il faut brancher.
Mais j'ai branché.
Oui. Oui,
je réagirais bien en posant la question de... Vous avez dit au début qu'il y avait eu un moment où... On ne s'y intéressait plus parce qu'il y avait une difficulté entre la science et l'Église. Mais finalement, tout ce que vous nous avez dit là, ce n'est pas très scientifique. Ça continue, la difficulté entre la science et l'Église, non ?
Mais oui, mais c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que chacun campait sur ses positions.
Oui, mais là, si on vous écoute, on n'écoute que la position de l'Église, qui n'a rien à voir avec la position de la science.
Oui, mais on lit la Bible d'une manière où on se dit, là, on n'est pas du tout dans une recherche scientifique du comment se sont passées les choses. Donc, il n'y a pas, n'y a pas à entrer en débat là-dessus. On n'a aucun problème pour dire on n'est pas dans une création en 7 jours, on ne tient pas à ça. On est dans, dans un texte qui nous dit le sens. Et là, de ce point de vue-là, on peut rentrer. Vous avez des scientifiques qui se posent ces questions, justement, puisque eux, de leur côté, cherchent et voient qu'on reste devant une impasse, quand même, une inconnue. Et donc, on est sur deux terrains différents, mais on n'est plus dans une opposition frontale. On est dans un terrain où on peut retrouver des points de rencontre. Mais le scientifique qui n'est pas chrétien, il n'adhérera pas, ça bien sûr. Mais c'est une proposition chrétienne. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce débat virulent où chacun attaque l'autre. On a appris à articuler, tout simplement.
Et alors, vous nous avez dit au début, vous avez employé le mot « présentation historique ». Ce que font actuellement les théologiens, justement, pour ne pas être en opposition avec la science. Ça veut dire quoi, présentation historique ?
Non. Alors, je me suis peut-être mal exprimée. Ça veut dire que la dimension de l'histoire, elle est extrêmement importante en théologie. C'est que les choses ne sont pas créées fixes et immuables. Au contraire, on est dans un Dieu qui rentre dans l'histoire. On comprend notre vie, mais l'histoire de l'humanité comme une histoire qui avance avec des hauts, des bas, parfois des retours en arrière, mais qui avance vers quelque chose. Et vous verrez, ce sera la conclusion du cours, justement.
D'accord, merci.
Oui, Aude.
Oui.
Si tu permets. Je suppose que le texte a été écrit à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, ce que tu disais.
Celui-là, oui, celui-là très ancien.
C'était dans un monde où l'homme était omniprésent par rapport à la femme, je suppose. Ou est-ce que la femme aurait pu déjà avoir un rôle significatif? Il y a certains endroits du monde où la femme avait quand même un rôle.
Ben, on est dans des sociétés qui, dans l'ensemble, sont très patriarcales.
Ça peut expliquer l'ordre des choses dans le texte.
Mais ça qui est très intéressant, c'est que quand tu relis quand tu relis le texte biblique avec les questions d'aujourd'hui et avec les savoirs nouveaux aujourd'hui, tu ouvres des sens en permanence nouveaux. Et par exemple, on en parlera la prochaine fois, dans cette question de la domination sur la nature, ça a inspiré des réflexions sur justement ce rapport un peu despotique de l'homme, sur une relecture des textes qui nous font découvrir des textes, des choses qu'on n'avait pas vues. Et quelqu'un comme Beauchamp, sur la loi de douceur, dont on reparlera, il nous dit que c'est le thème de Genèse 1 et on ne l'avait pas vu. Et il dit en fait c'est l'enseignement principal de Genèse 1. Mais qu'est-ce qui a inspiré ça? Eh bien, c'est tout le contexte, en fait, qui nous oblige à le relire avec d'autres lunettes, en fait. Et en fait, on y trouve toujours des profondeurs inattendues. C'est le propre du récit. Par rapport à un discours, c'est qu'un discours, il te ferme le sens, alors que le récit, il ouvre le sens. Et c'est exactement ce que te dit Wénin quand il dit le lecteur, avec son histoire, qui lit le texte, sachant que nous, en plus, on le lit en église, chacun ne se fait pas son interprétation personnelle, il découvre des sens que peut-être même l'auteur biblique n'y avait pas vu.
Je suis interpellée par Ish et Isha. Oui. Pourquoi on n'en entend pas autant parler que ça? Enfin, je découvre.
Parce que regardez, où est-ce que vous voulez en entendre parler? Dans les homilies, est-ce que vous entendez souvent prêcher sur la création? Franchement, jamais. Hein, sur les récits de création. Alors, on les entend lus, peut-être dans les célébrations, mais pas. On prêche pas tellement dessus. Alors, au catéchisme, un petit peu, mais bon, pour des enfants, et ce n'est pas évident. D'où, c'est pour ça que je vous donne des bibliographies, parce que vraiment, je vous encourage à lire. Vous lisez le chapitre de Genèse 2 de Beauchamp et vous lisez Wénin, ça va vous ouvrir des horizons incroyables. Mais c'est vrai, c'est des choses. Et puis attendez, il y a une culture chrétienne qui se perd complètement. Pourquoi est-ce qu'Anne-Marie a écrit le livre que je vous ai dit? Elle prend 20 textes, passage de la mer Rouge, le sacrifice d'Isaac, des choses comme ça. On en a complètement perdu le sens. Mais c'est vrai. Mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui à 2 heures, qui m'a dit, mais ça me tue de me dire que j'ai attendu 75 ans pour entendre ça. Et je dis vraiment des trucs qui sont Vous voyez, ce n'est pas des trucs de chercheurs que je vous dis, c'est des trucs que vous trouvez dans tous les... Il y a un accord en théologie sur ces choses-là.
Oui. C'est déjà bien d'avoir pris connaissance de ça à 75 ans, c'est mieux que rien du tout.
Oui, mais voilà. Mais par exemple, toutes les questions de genre, etc., ouais, c'est un énorme chantier et on ne donnera jamais personne à la réponse. Ben, des gens comme Véronique Margron, par exemple, dont vous avez entendu parler à propos des abus, etc., elle a vachement travaillé sur ces questions, toutes ces choses de ish, isha, etc. Il n'y a pas qu'elle, hein, mais c'est des choses qui nous sautent aux yeux maintenant. Cette différence, cette légitime différence, et en même temps au sein d'une unité. Bon, ben, tout ça, c'est des trucs qui amènent à retravailler avec un autre angle de vue, peut-être. Alors, je vous propose d'aller à Genèse 1. Alors, Genèse 1. Et si quelqu'un veut bien lire, avec grand plaisir.
Moi, je veux bien lire.
Ah, merci. Okay.
Je laisse faire.
Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre.
Pardon.
Dieu appela la lumière jour, et la ténèbre, il l'appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament, et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures. Il en fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le continent paraisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre le continent. Il appela mer l'amas des eaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes qui rend féconde sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant eux-mêmes leur semence. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe qui rend féconde sa semence selon son espèce, des arbres qui portent des fruits, ayant en eux-mêmes leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit, et les étoiles. Dieu les établit dans le firmament du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et séparer la lumière de la ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes, et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants et remuants selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux, et tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était beau. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers, et que l'oiseau prolifère sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, petites bêtes et bêtes sauvages selon leur espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre
et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. » Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. » Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, sixième jour. Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au septième jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le septième jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création.
Merci beaucoup. Donc, vous voyez, on est dans un univers complètement différent de celui de Genèse 2, mais ce dernier petit verset que vous venez de lire, c'est celui qui fait la transition avec le récit qu'on vient de lire avant, Genèse 2. Ça s'enchaîne directement. Ce petit verset, il oblige à lire les deux ensemble, en fait. Donc, autre par le style littéraire, et puis autre dans ce qu'on raconte. Ce n'est pas du tout le même scénario, ce n'est pas les mêmes insistances, tout simplement parce qu'on n'est pas dans la même tradition. Genèse 1, donc là, ça, c'est vraiment le premier texte chronologique dans la Bible, enfin chronologique, dans l'ordre de lecture, pas chronologique dans le temps, dans l'ordre de lecture. Celui-là a été probablement écrit à une époque postérieure, probablement pendant l'exil ou juste après, dans les milieux qu'on appelle sacerdotaux. On le voit, vous allez le comprendre, parce que ce texte porte la marque des prêtres. Alors, je vais juste vous redire quelques mots de contexte. Donc, vous savez que Dieu avait fait alliance avec Israël et que malheureusement, l'histoire va mal tourner. Et qu'après une succession de dérives, tout se termine par une énorme défaite face à Nabucodonosor, qui est le roi de Babylone. Et en 587, le peuple est emmené en déportation. Donc, il est complètement absorbé par un grand empire. Et il perd tout ce qu'il avait reçu. Il avait reçu quoi ? Une terre, un roi, et il perd son temple. Tout s'effondre. Et là, il faut imaginer quelle a dû être l'ampleur de la crise spirituelle qu'a traversée Israël. Ils avaient l'impression que c'était les dieux concurrents qui triomphaient, en fait. Ça a dû être absolument terrible. Alors, que va faire Israël ? Dans un immense effort de relecture de son histoire, il va essayer de donner un sens au présent. Et il va reprendre les choses au commencement. Exactement comme nous, quand on ne sait plus très bien où on est d'un projet et qu'il faut revenir aux intuitions du départ. Et en fait, l'expérience de l'exil qu'ils sont en train de subir, qui est en fait l'expérience de la fin d'un monde pour eux, va pousser Israël à revenir à l'origine et à la création du monde et au Dieu créateur. Un Dieu en qui on peut mettre sa confiance parce que c'est celui qui a créé. Et que ce Dieu qui a créé a aussi fait des promesses et qu'il a déjà tiré d'affaire le peuple dans le passé, par exemple en le sauvant d'Égypte ou en lui faisant passer la mer Rouge. Et c'est comme ça qu'on en arrive à ce texte, à la gloire d'un Dieu qui est reconnu comme le maître de l'histoire et du cosmos. Alors, si je reprends, j'essaye de revenir, ah non, c'est pas là, non, Bobo, dans l'autre sens. Et je reprends le début. Voilà. Deux petits versets au début. La terre était déserte et vide et la ténèbre à la surface de l'abîme. Voilà. On est transporté en imagination dans un temps d'avant la création, un temps inconnaissable, un monde primordial qui est vu comme un chaos aquatique, surface des eaux, et ténébreux, la ténèbre de l'abîme, la ténèbre à la surface de l'abîme. Très très différent de la terre désertique de Genèse 2. Des représentations comme celle-là, c'est typiquement repris des mythes voisins. Tout le temps, il y a de l'eau. Tout le temps, il y a de l'eau. Et même si vous reprenez le motif de l'eau dans la Bible, vous voyez qu'il est très présent. Vous pouvez penser à Moïse sauver des eaux, vous pouvez penser à Noé d'abord, Noé le déluge, sauver des eaux, le passage de la mer Rouge, etc. C'est le même geste. On écarte les eaux de la mort et du chaos pour faire surgir du sec et de la vie. Et vous remarquez que pour nous chrétiens, c'est le même thème du salut des eaux dans le baptême. Le rituel du baptême, qu'est-ce qu'il prévoit ? Il prévoit une plongée dans les eaux qui est de l'ordre d'une mort et d'une résurrection. C'est de l'ordre du symbole. Donc un monde sauvé des eaux. Sauvé des eaux, déjà un acte de salut. Ce que je vous disais l'autre fois, création et salut, ça va toujours ensemble. C'est mêlé, c'est pas séquentiel. Cet acte de création, c'est déjà un acte de salut. Qu'est-ce que vous remarquez ensuite qui va être continuel dans tout le texte ? Qu'est-ce qui vous frappe dans ce texte ?
C'est que pour créer, Dieu dit, en fait, c'est sa parole qui est une action.
Ben voilà, la place
Dieu
de la parole.
Dieu dit, Dieu fait.
Voilà, Dieu dit de fait. Alors là, il y a vraiment une place de la parole qui est ultra présente. Dieu dit, ça revient à chaque fois qu'il y a un geste de création en tête de chaque jour. Dieu crée comment ? Par sa parole. Par la seule force de sa parole. Il parle et ça se fait, c'est ce que vous dites. Il parle et la lumière surgit, les eaux se séparent, etc. Donc par sa parole, il ouvre un espace qui fait que l'autre va pouvoir advenir en face de lui. Vous savez bien que pour qu'il y ait une parole possible, il faut qu'il y ait une distance, il faut qu'il y ait un espace. Et bien par sa parole, Dieu donne l'être à l'autre que lui. Et il va donner à chaque chose sa consistance propre. Et là, pour le coup, on est à mille lieues des mythes voisins, où généralement, la toute-puissance créatrice, elle est de l'ordre de la violence. Le monde surgit du combat des dieux le plus souvent. Qu'on abatte un dieu, à Trasis, qu'on abatte un dieu, à sa chair, à son sang, qu'on mêle de l'argile, etc. Non, là, Dieu parle le monde, et c'est comme ça qu'il arrache à la confusion originaire. Vous voyez aussi, si on se rapporte à notre expérience propre, que c'est ce que fait la parole. La parole pour sortir de la confusion. Ça, c'est quelque chose dont on fait l'expérience. Quand un bébé, pourquoi est-ce qu'un bébé peut entrer dans un monde qui est humainement habitable ? C'est parce que ce monde est parlé devant lui, qu'il n'est pas indifférencié. C'est papa, c'est un jouet, c'est un chien. On parle le monde devant lui et le monde prend son ordre. Donc, la place de la parole. Qu'est-ce que vous remarquez encore ? L'œuvre divine, elle est de création, mais elle est tout autant de...
De séparation.
De séparation. Tout autant de création que de séparation. Dieu parle et Dieu sépare. Verset 4, la lumière et les ténèbres. Verset 7, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ensuite, les luminaires qui créent pour séparer le jour de la nuit. Donc comment est-ce que le monde émerge de la distinction de départ ? Par une série de séparations successives. C'est la séparation qui permet à chaque réalité d'émerger en tant que telle, qui permet à chaque chose de respirer en quelque sorte. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on sait très bien aujourd'hui, l'importance de la séparation pour pouvoir être pleinement soi-même et advenir à soi-même. C'est des choses que la psychanalyse nous a complètement mises en lumière. Et donc, vous voyez que l'action créatrice ici, elle consiste en une mise en ordre par la parole, d'un chaos initial, et que ça aboutit à un monde ponctué de différences, ordonné, hiérarchisé, et que ce sont ces séparations qui vont lui donner sa cohérence. Ce sont ces séparations et ces différences qui vont permettre quoi ? Les relations. La séparation, ce n'est pas une fin en soi. La justification de la séparation, c'est de permettre à la relation de s'instaurer. Alors, si on regarde le récapitulatif des interventions, au début, Dieu crée la lumière. Donc, dès le départ, on nous dit « Dieu instaure le monde et Dieu instaure le temps. Il y eut un soir, il y eut un matin. » Le temps, il est rythmé aussi, vous voyez, pas simplement par l'alternance jour-nuit, mais par la mise en place de la semaine, on a 7 jours, et par le caractère sacré du 7e jour, qui est distingué des autres. Ensuite, au 2e jour, surgit le firmament, qui va séparer les eaux inférieures des eaux supérieures. Il faut voir qu'à l'époque, la représentation qu'on avait de la Terre, c'était un disque plat qui était posé sur des colonnes qui plongeaient dans les eaux. Et au-dessus, il y avait une voûte céleste qui retenait les eaux d'en haut et à cette voûte étaient accrochés les astres. Donc là, on est dans la cosmogonie de l'époque. Au 3e jour, le continent. Et vous remarquez que ce continent, il a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il reçoit l'ordre de produire Attends, zut. Non, c'est avant. Voilà, au verset 11, c'est intéressant. Parce que vous voyez que le continent, il va se couvrir de verdure qui par elles-mêmes vont porter sur terre leurs semences, etc. La terre, verset 12, la terre produisit de la verdure. Comme si la création se continuait par elle-même, par les objets créés eux-mêmes. Comme s'il y avait une création qui était continuée. Comme un dynamisme qui était inhérent à cette création. Au quatrième jour, on a les astres qui marquent les moments du temps, qui signent le retour des saisons et des fêtes. Très intéressant. Encore une démarcation par rapport aux voisins. C'est que dans la religion babylonienne, on honorait le soleil et la lune comme des dieux. Genèse 1, ici, les désacralise complètement. Elle n'en fait plus que des luminaires, elle ne les nomme même pas. Pour Israël, il n'y a qu'un seul Dieu, unique, créateur, Dieu. Ensuite, au cinquième jour, on a les habitants des eaux d'en haut et ceux d'en bas, les poissons qui sont dans la mer et les oiseaux qui sont dans le ciel. Bref, durant 5 jours et 5 nuits, on voit que Dieu fait reculer le chaos. Le monde s'organise, toute chose est à sa place, et on arrive au sixième jour. Et le sixième jour, il est occupé à peupler la terre de ses animaux et à établir l'homme. Vous voyez qu'en fait, tout semble avoir été préparé, c'est la différence avec Genèse 1, tout semble avoir été préparé pour la venue de l'homme, pour l'accueillir. Et en fait, son ultime position, voilà, les bêtes, là, voilà, les bêtes, et au 26, on arrive à l'homme. En fait, l'homme, il arrive dans la dernière position dans tout ce processus de l'œuvre de Dieu. Et là, on nous dit, superlatif, alors que tout, on nous a toujours dit que c'était bon, on nous dit, Dieu, voilà, ah non, c'était là, voilà, c'était très bon. Verset 31, voilà, c'était très bon. Tout est fini, c'était très bon. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que d'un côté, comment est-ce que le récit pense l'homme ? Il le pense vraiment dans son appartenance au monde des créatures et même dans une parenté avec l'animal. Vous voyez qu'il apparaît comme l'animal le sixième jour, juste derrière lui, qu'il est créé mâle et femelle. Comme toutes les autres espèces vivantes, on ne nous dit pas qu'elles ont été créées mâles et femelles, mais on dit qu'elles ont été appelées à la fécondité. Alors, qu'est-ce qui le distingue ? Eh bien, voilà. C'est ce fameux verset 27. Il est dit de l'homme qu'il est aussi créé à l'image de Dieu. Ça, c'est le point d'orgue du récit. C'est ce qui va démarquer radicalement l'homme de tous les autres êtres vivants. Qu'il installe un peu comme au croisement de la sphère divine et de la sphère créée. Le texte ne dit pas que l'homme apparaisse sur terre venant ajouter un petit peu plus de perfection à tout ce qui a déjà été fait. Le récit nous dit que Dieu crée un être à son image. Un peu moindre que lui, dira le psaume. Un peu moindre qu'un Dieu, dira le psaume 8, si vous vous rappelez du cours de la dernière fois. Alors, on va essayer de revenir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette création à l'image de Dieu ? Vous pensez bien, enfin, quand vous y réfléchissez, c'est quand même complètement fascinant d'avoir pu oser écrire une chose pareille. Surtout à une époque où on ne se fait pas l'image de Dieu. Hein. Si vous ouvrez un dictionnaire, vous ne trouverez nulle part aucune définition comme quoi l'homme est à l'image de Dieu. Quand Aristote nous dit « l'homme est un animal raisonnable », ça, on peut y arriver par le travail de la raison. Mais de se penser comme image, c'est autre chose. Ça, c'est une notion qui est vraiment révélée, c'est une notion qui est biblique. Et cette création à l'image, elle fait vraiment de l'homme une créature singulière parce qu'elle dit une relation extrêmement spéciale entre l'homme et Dieu. Et c'est justement sur cette relation unique que va être fondée la dignité inaliénable de tout homme. Inaliénable, ça veut dire que l'homme peut être dégradé, peut être abîmé, toujours sa dignité subsiste, ne serait-ce qu'en raison de ça, parce qu'il est image de Dieu. Et Dieu lui-même se porte garant de cette dignité. Le mot d'image, qui est tellement fort pour nous en christianisme, cette notion de créer l'image de Dieu, on la retrouve très peu ensuite dans l'Ancien Testament. On la retrouve quand même quelques chapitres plus loin, en Genèse 9, où on a cette phrase. C'est après le moment de, juste après le déluge, quand Noé va sortir de l'arche. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme verra son sang versé, car à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose de sacré en lui. Ça, c'est une des affirmations de la voie chrétienne. Il y a en tout homme un inviolable auquel on ne peut pas toucher. Et Dieu demandera compte à chacun de la vie de son frère. Vous remarquez que cette image, elle s'exprime aussi, verset 26, sous la forme de la ressemblance. Il y a deux mots dans le texte hébreu, image et ressemblance. L'exégèse biblique s'accorde unanimement pour en faire des synonymes. Et elle dit, ben, c'est une juxtaposition simplement pour une redondance littéraire, pour pouvoir insister. Mais ce qui se trouve, c'est que quand on a traduit la Bible en grec, donc 2 siècles et demi avant notre ère, et puis après quelques siècles après Jésus-Christ, il se trouve que certains pères de l'Église, et notamment saint Irénée, mais d'autres avec lui, ont établi une différence entre les deux. On a vu des mots nouveaux apparaître par rapport aux mots hébreux, eikon, image, homoiosis, similitude. Et voilà ce qu'ils disent. L'homme est créé à l'image, mais il est appelé à la ressemblance.
Ouais, c'est ça.
Et toute son histoire, ça sera justement de s'accomplir dans la ressemblance à Dieu. Irénée prend en compte le fait, là encore, qu'il y a une histoire et que c'est au terme que l'homme s'accomplit comme image de Dieu. Et où est-ce qu'il s'accomplit comme image de Dieu? Eh bien, peut-être d'abord dans le Christ, dans la personne même du Christ, lui seul. Nous, on est créés à l'image. Mais l'image parfaite, l'image véritable de Dieu, c'est le Christ. C'est comme ça que Paul en parlera. La plénitude de l'image, elle se réalise déjà dans le Christ, vrai homme. Parce qu'il est par toute sa vie l'image parfaite du Père. Et au plus haut point dans sa résurrection. Mais cette ressemblance, elle s'accomplit aussi pour chacun de nous, pas simplement dans le Christ, mais pour chacun de nous, à la mesure que nous nous unissons au Christ. Ça, c'est notre vocation, s'accomplir à l'image. On est tous appelés à être configurés au Christ. Ça veut dire à laisser se déployer en nous l'image de Dieu qu'on porte, en nous unissant au Christ et en nous laissant transformer par lui. Image et ressemblance. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de cette image ? Vous voyez qu'elle est liée à deux aspects. D'abord, elle est liée tout de suite derrière, verset 28, au fait de dominer. Soumettez, verset 26, dominer. Et il y a toute une tradition théologique qui a énormément valorisé cette dimension, disant l'homme est à l'image de Dieu en raison de la maîtrise que Dieu lui confère sur la nature. Ça, on en reparlera beaucoup au prochain cours. Et quel est le deuxième trait qui est propre à cette image?
Elle est bisexuée.
Ben oui.
Intéressant. Elle apparaît différenciée. L'être humain est créé mâle et femelle. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa.
Voilà. Alors, est-ce que Dieu est mâle et femelle? Ça pose presque la question.
Eh bien oui, mais vous allez voir. Dieu, il est quoi en lui-même? Comment est-ce qu'il se révèle à nous?
Pas deux, Dieu.
Il est en trois. Il est en trois personnes. C'est-à-dire qu'il se révèle comme étant profondément déjà dans une circulation d'amour en lui-même et déjà relation interne à lui-même. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que cette image, alors cette image, elle est immédiatement reliée à l'idée d'une relation homme-femme, qui s'exprime comment? D'abord dans la différence des sexes. Vous voyez, c'est intéressant. Regardez le pluriel et le singulier. Dieu créa l'homme à son image, unité, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. C'est ainsi que l'être humain est présenté à l'image de Dieu. La création de l'être humain ici, elle est explicitement création de l'homme et de la femme. Donc la différence des sexes, c'est-à-dire la différence, pour l'auteur de Genèse 1, elle appartient d'emblée au geste de Dieu. Ce n'est pas une construction a posteriori. Si je reprends juste un petit peu de la théorie du genre, il nous dit que c'est un accident de l'histoire. Parfois, on la réduit à ça. Ce que nous dit l'auteur de Genèse 1, c'est que la différence des sexes, c'est une différence essentielle. Elle est constitutive de l'être humain parce qu'elle inscrit l'altérité au cœur même de l'humain. Pour vous répondre, Marie-Christine, oui. On a l'écho de l'altérité qui est au cœur même de Dieu.
C'est très différent du premier texte.
Comment ?
Il y a une énorme différence par rapport au texte de tout à l'heure. Où là, c'était successif, là, on est vraiment dans la simultanéité.
Oui, mais en même temps, le Ish devient Isha dans le même verset. Le Ish, Adam devient Ish et Isha dans le même verset. Avant la création de la femme, c'est un être indifférencié. Au moment où la torpeur tombe sur lui, et où la femme est créée, ils deviennent Ish et Isha. Donc, je ne sais pas si on peut tellement dire ça, tu vois. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est conjointement l'homme et la femme qui sont à son image. Et dans tout ce que Dieu a créé, ce qui signifie le mieux Dieu, ce qui renvoie le mieux Dieu à ce qu'il est, c'est ce couple homme-femme. C'est ce nous. C'est ce nous. Un nous qui donc nécessairement est en relation. Si l'homme est à l'image de Dieu, c'est que ce n'est pas un être solitaire. Mais c'est parce qu'il est dans cette réciprocité, placé avec l'autre humain pour l'aimer. Je dis ça parce que dans l'histoire, on a énormément valorisé la première dimension. Et en fait, on s'aperçoit qu'il ne faut pas le faire au détriment du second. Il faut les deux. La première, on l'a en plus parfois bien tordue. On verra ça la prochaine fois. Mais cette deuxième, vous voyez qu'elle est vraiment dans le geste. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Alors, on pourra encore dire plein de choses sur l'expression créée à l'image. On va disputer sans cesse hein, dans l'histoire de l'Église sur ce que ça a pu bien vouloir dire. La seule chose qu'on peut dire, vous voyez que c'est quelque chose qui est quand même, on a des pistes. En même temps, créer à l'image est quelque chose qui est un peu indéterminé. Il y a la place pour... Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que il y a beaucoup de théologiens qui nous disent, c'est déjà ce que disait Guéché l'autre fois, cette question de la transparence que je vous ai dit, qu'on était un mystère pour nous-mêmes. Eh bien oui, mais peut-être qu'on est un mystère aussi pour nous-mêmes parce qu'on est à l'image d'un Dieu que personne ne peut saisir. On est créé à l'image d'un Dieu qu'on ne peut pas représenter, sur lequel on ne peut pas mettre la main. Créé à l'image de ce Dieu-là, ça veut peut-être dire aussi qu'on ne peut pas mettre complètement la main sur l'homme. On ne peut pas le mettre dans définition. On rejoint vraiment cette catégorie de mystère dont on a déjà parlé. Je vous cite Henri de Lubac qui dit « On raisonne souvent comme si tout le mystère était du côté de Dieu. Or, l'homme est mystère dans son essence même, dans sa nature, parce que référé au Dieu incompréhensible. » Et peut-être qu'on peut comprendre notre nature qu'en se laissant librement saisir par cet incompréhensible.
C'est ainsi qu'on ne peut pas mettre la main sur l'autre non plus.
Non, ni sur soi-même, ni sur l'autre, ni sur Dieu. Il y a toujours quelque chose qui nous dépasse, en fait. Alors, vous voyez, ça, ce n'est pas des choses nouvelles. Toute la philosophie le dit. Quand Pascal dit « Dieu passe infiniment l'homme », c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Mais vous voyez que la foi, elle est dans ce paradoxe et elle l'assume complètement. Elle dit « Oui, l'homme est créé, il n'est pas Dieu, il est pris du règne animal, il est dans une dépendance totale à la terre dont il a été créé, et en même temps, il est créé à l'image de Dieu, d'un autre, qu'il dépasse, qu'il appelle à la vie divine. » Donc on est à la fois fini, contingent, on ne trouve pas notre origine en nous-mêmes, et en même temps, on est distingué du reste du cosmos par cette relation spécifique au Créateur. Voilà, il y a une mise en tension qui est incroyable en fait dans ces textes. Mais tout le christianisme est tout le temps comme ça. Vous l'avez déjà vu certainement dans le cours sur le Christ. Vrai Dieu et vrai homme, il y a une tension incroyable et il faut tenir ensemble. Un Dieu, un et trois, il y a une tension. eh bien là, il y a encore cette tension, fini, contingent, et en même temps, appelé à communier, là, la fameuse sublimité de la vocation. Appelé, fait pour Dieu, appelé à, et fait à l'image de Dieu. Je vais passer sur... je vais juste vous faire remarquer qu'il y a à nouveau, il y a le don, hein. Toutes les premières paroles, c'est du don, hein. Que la lumière soit, que la terre soit, que les bêtes soient, que l'homme soit, tout est du don. Et en même temps, il y a encore un commandement. Petit parallèle avec le texte d'avant, soyez féconds et multipliez-vous. Puis un deuxième commandement, soumettez et dominez. Voilà. Et en même temps, vous remarquez qu'il lui demandait de dominer sur les animaux, mais qu'il est interdit de les manger à ce stade-là. Ça arrivera plus tard, l'autorisation de les manger. Je termine quand même sur le « c'était très bon ». On est comme dans une montée, vous voyez. Chaque jour, c'est bon, c'est bon. Le monde est béni. Béni, ça veut dire dire du bien. Le monde est béni.
Je peux revenir sur le sujet manger les animaux ou pas ?
Oui.
Parce que là, les jeunes, ils sont en train de tomber tous vegan. Oui. Impressionnant, mes enfants. Donc, je ne sais pas comment me positionner par rapport à ça. Et du coup, je suis saisie par au début, ce n'était pas autorisé. Donc là, les grands débats, c'est les animaux ont-ils une âme ?
Non.
Quand sait-on ?
Voilà. Ça sera toute la question du rapport à la terre qui est un rapport de douceur ou de violence. Mais on va vraiment en reparler largement la prochaine fois.
Ok, merci.
Donc, vous voyez que le monde est béni constamment dans ce poème. Il n'y a aucune trace de péché. C'est ça aussi, hein. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de manger les animaux, il n'y a pas de violence. Toute chose est à sa place. Tout ça, c'est très bon. Et on arrive à un septième jour. Qui tout d'un coup est différent des autres. C'est le jour où l'œuvre s'achève et où Dieu se repose, où Dieu s'arrête. Et vous voyez que ce septième jour, au verset 3, Dieu bénit le septième jour et le consacra. Il est vraiment l'objet d'une consécration particulière. Ce motif du repos, il acquiert une importance énorme dans le texte, pratiquement égale à tous les gestes de création qui l'ont précédé, comme si tout était en marche vers ce septième jour où Dieu regarde son œuvre, récapitule l'œuvre accomplie et s'arrête. Alors là, je voudrais revenir sur cette idée que je vous avais dit tout à l'heure, que ce texte porte la marque des prêtres. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce septième jour ?
Le Shabbat.
Ben voilà, pas simplement le septième jour de la semaine. Ça évoque le Shabbat. Et qu'est-ce qui se passe en exil quand on n'a plus de temple, plus d'endroit pour faire le culte, plus rien ? Et qu'on veut arriver à défendre son identité, qu'est-ce qui va devenir sacré ? Puisqu'on n'a plus l'espace, ça va être le temps. Et c'est en ce temps de l'exil qu'on va instituer avec d'autres pratiques très fortes un certain nombre de choses pour maintenir l'identité du peuple. La circoncision, les lois de pureté et le Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour qui est consacré à Dieu. C'est le jour liturgique, le jour où l'homme fait une pause, s'arrête comme Dieu s'arrête le septième jour, où il célèbre et loue le Seigneur. Donc le choix des sept jours pour raconter la création du monde, c'est une référence au temps liturgique. Les auteurs de ce texte, dont dans le milieu des prêtres, ont utilisé ce temps, un temps qui leur était familier, au rythme duquel ils vivaient, qui a cette particularité de nouer ensemble le temps humain, le temps de la vie humaine et le temps des actions de Dieu, et qui culmine chaque semaine dans ce jour du sabbat où on s'arrête. Dans ce texte, Dieu construit un monde selon un calendrier liturgique. Et le monde, il apparaît comment alors ? Comme un grand temple où on va pouvoir louer Dieu. Alors ça vous paraît un petit peu abstrait, mais je vous montre. Ça, c'est Teilhard de Chardin. Vous connaissez peut-être une œuvre de lui qui s'appelle « La messe sur le monde ». C'est un de ses grands textes. Quand il écrit ce texte, il était faisait des recherches de paléontologie en Chine. Il n'avait absolument rien pour dire la messe. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend ce vaste monde comme l'autel sur lequel célébrer. Et il fait une magnifique prière, la messe sur le monde. Vous pouvez trouver tout le détail sur Internet. Une prière qu'il avait commencée déjà pendant la Première Guerre mondiale, pendant qu'il était dans les tranchées. Là encore, quand il n'y avait pas de vin, pas de vin, pas d'autel. Et voilà le début. Puisqu'une fois encore, Seigneur, non plus dans les forêts de l'Aisne, mais dans les steppes d'Asie, je n'ai ni pain, ni vin, ni autel. Je m'élèverai par-dessus les symboles jusqu'à la pure majesté du réel. Et je vous offrirai, moi, votre prêtre, sur l'autel de la terre entière, le travail et la peine du monde.
C'est magnifique.
C'est l'intuition que le monde entier est ce temple où on peut célébrer Dieu. Voilà. Donc, un texte, vous voyez, si je résume, qui prend pour le coup la forme d'un poème liturgique, qui veut manifester la grandeur de Dieu. Un texte où on voit Dieu, l'unique créateur, poser un monde par la seule puissance de sa parole, où l'on voit que cette action créatrice, elle consiste en une mise en ordre d'un chaos initial, et un texte qui, comme Genèse 2, place l'homme au milieu d'un ensemble de relations avec Dieu, le monde, les animaux et l'autre, et qui, comme Genèse 1, ouvre sur une histoire. L'histoire en Genèse 1, c'était « ne fais pas ça », on se demande ce qui va suivre, et là, c'est « multipliez-vous, dominez, vous pouvez manger ». Et on se demande ce qui va suivre aussi. Alors, j'ai 5 minutes pour vous donner une conclusion sur ces deux textes. Et puis après, si vous avez des questions. Si je récapitule, donc c'est mon dernier point, conclusion et ouverture. Si je récapitule, quelle est l'historicité de ces textes? Ces textes ne relatent pas des faits historiques. On est dans une littérature de sagesse. Ça ne peut pas passer comme ça et l'origine reste insaisissable. Quelle valeur scientifique? Aucune. Les textes de la Genèse ne prétendent à aucune scientificité. Et ce que nous a rappelé, c'est récent, hein, 1943, hein, que nous a rappelé le pape dans une encyclique, quand on lit les textes de la Bible, extrêmement important pour les comprendre, de tenir compte de leur genre littéraire. Ici, le mythe. Ça ne signifie pas que le discours n'est pas pertinent, c'est simplement un autre type de discours que le discours scientifique. Le domaine, ce n'est pas d'expliquer, c'est celui d'interpréter à la recherche du sens de ce monde, de l'ordre des choses, de la condition humaine. Donc, il n'y a pas de contradiction. Troisième texte, ces textes sont fondés sur une expérience de salut. Israël commence par découvrir que son Dieu est un Dieu sauveur. Et cette expérience, fil de l'histoire, va le renvoyer à l'idée d'un Dieu créateur. C'est le retour vers l'origine dont je vous ai parlé. Ensuite, deux récits complètement différents et même contradictoires. Hein. Le désert dans un cas, l'eau dans l'autre, les animaux qui arrivent avant dans un cas et après dans l'autre, après l'homme. Et en fait, ils nous racontent la même chose, que le monde a été créé par la volonté de Dieu, que la création est bonne, que Dieu veut une alliance avec cet homme qu'il a créé, avec lequel il rentre en dialogue. Une vraie alliance, c'est-à-dire une alliance avec un être qui est vraiment différent de soi. Et on voit bien que leur juxtaposition montre qu'une même foi en un Dieu créateur peut se construire sur des visions différentes du monde. Elles ont probablement plus de 5 siècles d'écart. Ouverture, on n'a pas le temps de creuser ça. Mais il faut quand même en être conscient, c'est que Genèse 1 et 2 ne sont les plus connus, mais ce ne sont pas du tout les seuls textes de l'Ancien Testament à parler de la création. La thématique de la création, elle traverse tout l'Ancien Testament. Vous l'avez chez les prophètes. Vous l'avez. Alors on pense à eux parce qu'ils sont au début de la Bible et qu'ils sont très très connus. Mais vous l'entendrez chez les prophètes. Vous trouvez un magnifique texte de création dans le livre de Job. Vous en trouvez aussi dans le livre de la Sagesse, dans les psaumes, sans cesse, le psaume 8. Que vous connaissez maintenant, mais sans cesse, il nous chante la gloire de Dieu au travers des merveilles de sa création.
Le titre.
Pardon ?
Hein ? Oui.
Voilà, donc vous verrez dans le texte de Laudato aussi, le chapitre que vous allez étudier, il retraverse tout ça. Et puis la question de la création, eh bien, elle est présente dans le Nouveau Testament aussi, et avec de nouveaux accents. Dans les évangiles, pas beaucoup. Jésus ne parle pas beaucoup de cette création originaire. On voit qu'il était en harmonie avec la nature, qu'il se retirait pour prier, que bon, voilà. Mais il ne parle pas tellement du récit des origines. Mais qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'il va être le basculement à la résurrection? Et là, on voit ça dans les lettres des apôtres. On va voir que la résurrection est un tournant énorme. Pourquoi? Parce qu'avec la résurrection de Jésus, les disciples vont vraiment faire une nouvelle expérience de salut qui sera pour eux de l'ordre d'une nouvelle création. La Pâque de Jésus pour les disciples, c'est du même ordre que l'Exode et la sortie d'Égypte pour les Hébreux. Jésus est passé par la mort et il en est sorti vivant, d'une vie nouvelle. Et les disciples regardent ça comme une nouvelle création qui cette fois-ci concerne tout l'univers, pas simplement un peuple, mais tout l'univers. Et à partir de là, ce thème de la création va faire l'objet d'approfondissements nouveaux qu'on retrouve très bien dans les lettres de Paul. Alors, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais pour ceux qui ont été à la messe des rameaux, je vous donne juste un petit exemple. On a lu l'Épître aux Philippiens et on nous dit que tout, où Jésus est vraiment présenté comme le Seigneur de toute la création, devant lequel, à qui de tête Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tout nom et devant qui tout genou fléchit, tout le cosmos, le ciel et même les enfers, tout fléchit devant Jésus qui est reconnu comme le Seigneur de la création. Vous voyez un exemple d'approfondissement nouveau. Voilà. En Jésus, tout est remis à neuf. Et donc, vous voyez, je termine là-dessus. Premier mot de la Bible, on voit que c'est une affaire de création. Au commencement, Dieu créa. Dernier mot de la Bible, c'est encore une affaire de création. Si j'ouvre la dernière page du dernier livre, qui est le livre de l'Apocalypse, voilà ce que je lis. C'est sur votre plan. Je peux repartager pour... comme ça, on aura la citation. Apocalypse 21. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et celui qui siège sur le trône dit, voici, je fais toute chose nouvelle. Je fais toute chose nouvelle. Comment est-ce qu'on peut mieux témoigner de l'importance de la notion de création pour la foi chrétienne? De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible est tout entière incluse entre la première et la nouvelle création. Et comme la Bible, c'est toute notre histoire qui s'achemine en réalité vers une nouvelle création. Voilà, j'espère que vous survivez. Je vais refermer le partage d'écran. Vous avez peut-être envie de réagir un peu.
Comme conclusion, c'est pas mal, les gens. Hein. Du début à la fin. Début de la Bible, fin de la Bible.
Voilà, vous vous souvenez de ce que je disais, hein, vraiment. C'est pas, on n'est pas dans un plan chronologique création, péché, salut.
C'est une création. Dans la création, où est le mal?
Pardon?
Où est le mal? Alors
là, on va passer. Ben voilà, il arrive au chapitre 3. Mais c'est très intéressant, vous voyez, parce que dans les deux premiers chapitres, nulle part il est question de mal.
Mais il y a un interdit. Comment? Un interdit quand même.
Oui, mais un interdit, c'est pas un mal.
Ben, si, ah oui. Parce qu'après, il fait mourir. Si on le... Donc, a priori, c'est le mal quand même. Enfin...
Et si vous dites à votre enfant, mets pas tes doigts dans la prise, sinon tu vas mourir, c'est un mal de lui dire ça?
Non, mais s'il met les doigts dans la prise, il se fait mal.
Ah ben oui, ah ben, il est libre.
Mal. Donc, s'il touche à l'arbre, c'est le mal.
Eh ben oui, mais on va voir. On va voir. Parce que justement, alors là encore, vous allez voir les interprétations qu'on peut faire. Parce qu'on a fait de cet interdit, justement, cet interdit... pour certains, a donné lieu à l'image d'un dieu méchant, d'un dieu jaloux de sa puissance, d'un dieu qui prévoit la mort de l'homme. Ouais. Ah oui. Il y a une autre interprétation possible.
Il y a aussi une notion de soumission de la nature et des animaux qui peut être interprétée comme une forme de mal.
Oui, alors justement, ça va vraiment y venir la prochaine fois. Donc la prochaine fois, on va faire plutôt les enjeux théologiques. Donc on va revenir... Qu'est-ce que c'est que créer pour Dieu? Mais on va sortir du texte biblique. Bien sûr, on va y trouver des ressources, mais on revient. Là, vous voyez, on était vraiment. C'était assez littéral, en fait, pour se les mettre bien en tête. Parce que quand on lit, on a l'impression qu'on les connaît vachement bien, ces textes.
Oui, c'est clair.
Quand on lit dans le détail, eh ben, il y a des choses où on se dit, tiens, on n'avait pas vu ça. Ou
on n'a pas vu que c'était très bon.
Oui, ouais, très bon. C'est clair. Et en fait, quand on les relit de près, ben, on y trouve quand même des les richesses qu'on, qui parfois à côté desquelles on passe. Mmh. Et la prochaine fois, on va vraiment revenir sur des thèmes, plus des thématiques, et notamment ce thème de la domination. Et le mal et le péché, ça sera vraiment pour la fois d'après. Et rassurez-vous, on aura deux cours, rassurez-vous, c'est pas gay, deux cours sur le mal.
Ah là là, c'est pas beaucoup. Hein. Quand j'ai vu le plan, j'ai dit deux fois le mal, ça.
Ouais, ouais.
On les lit alternativement à la nuit de Pâques, l'un ou l'autre.
Ben ouais.
Pâques, on lit l'un ou l'autre. Ou...
L'un ou l'autre quoi?
Les deux textes de la Genèse, parce qu'on lit.
Ah, quand on lit les fameuses, je sais plus, 11 ou 14 lectures. Ouais,
épouvantable.
Ben non, parce qu'en fait, justement, on reprend toute l'histoire.
Oui, mais enfin, maintenant, on a envie d'aller se coucher.
Ben ouais, mais justement, on reprend tous ces grands textes qui disent, qui fondamentalement rendent compte de l'histoire du salut et de notre histoire avec Dieu. Donc, c'est la seule fois de l'année où on fait ça. On relit toute l'histoire à travers les grands textes de la Bible.
Rameau. Ah non, pas au rameau, c'est à la veillée pascale.
À la vigile pascale.
Oui, à la vigile.
Ouais, ouais. Mais c'est là, on refait tout l'itinéraire en fait.
De ce passage. Une année c'est l'un, une année c'est l'autre. Non.
Non, c'est chaque année les mêmes textes. C'est chaque année les mêmes textes. Alors là, vous me posez une colle, je ne me souviens plus du texte qu'on lit, si c'est Genèse 1 ou Genèse 2.
Il y a les jours, donc ça doit être Genèse 1.
Ok. Ok. Voilà. Bon, mais comme quoi ça donne envie d'aller les relire. Alors, quand vous lisez ces textes-là, il faut toujours les lire avec une Bible qui a des notes. C'est pour ça que c'est bien d'avoir parfois une petite Bible pratique à emporter si on veut, mais avoir une Bible de travail qui soit.
Grosse.
Ouais. Pas vraiment ça ou ça.
Ah oui.
Soit la tobe, parce que derrière, d'abord, c'est extrêmement intéressant. Vous avez des cartes. Vous avez une chronologie, vous avez un lexique, et puis surtout, en marge, vous avez tous les passages auxquels ça peut vous faire penser. Et en notes, vous avez plein d'explications qui évitent quand même des contresens, ou des, qui donnent un peu de, voilà, qui donnent du contexte, ou qui donnent du gras, ou qui donnent des interprétations, ou qui donnent le mot hébreu, et voilà. Ishé Isha, vous le trouveriez là-dedans.
On peut revoir le. On
peut pas le voir.
Ouais, les filles.
On peut revoir la tombe, là, la quête C, parce que.
La mer.
Non.
Mais non, c'est la carte.
Ah. Et de face.
La Bible de Jérusalem. C'est la Bible de Jérusalem.
D'accord, mais c'est en grand format, là.
Mais c'est en grand format, donc vous avez plein de notes.
Ouais, ok.
Je sais pas si on a envie de. Si on a envie de travailler les textes, mais c'est vrai que c'est quand même. Moi, je dirais que c'est un des premiers trucs à se procurer si on a envie de lire un petit peu la Bible.
Oui, mais tu fous lire un petit peu.
Voilà, vous êtes courageux.
Ah non, merci, parce que c'est de qualité la façon dont tu le fais. Hein. Merci.
Oui, j'ai pas, ça fait.
Moi, j'ai ça.
Ça fait deux fois de suite en plus.
Quoi? J'ai celle-ci, mais c'est pas la. Il n'y a pas les mêmes notes, c'est la Bible de Jérusalem.
C'est très bien.
Mais elle est petite.
Elle est plus petite. Parce que je ne vois pas bien le format, mais elle est plus petite.
Elle est plus petite, mais il y a des choses en plus dans le grand format.
Ah bah oui.
Bah oui. C'est pas que.
Il y a des notes.
Oui, il y a des notes beaucoup plus détaillées.
Nous, on n'a pas de notes dans la Bible de Jérusalem.
Dans la petite Bible, généralement, on va vous renvoyer à une citation. On va vous renvoyer à un passage suivant. Et le passage suivant, il va vous renvoyer à une note qui vous renverra à un passage suivant. On dit que dans la. C'est comme dans les dictionnaires, vous savez.
Ouais.
Donc là, vous voyez, mais je j'ouvre n'importe quelle page. Regardez, j'ai un tiers de notes en bas. Tout ce qui est
écrit,
c'est des notes.
Ouais.
Donc, c'est intéressant.
Ouais. Ouais.
Mais ça, c'est important. Et puis, voilà. Et puis, le croire de Sesboué, par exemple. Ça, c'est vraiment bien aussi. Ça décante sacrément bien. Ça permet d'avoir une vision un peu synthétique, de la foi chrétienne. Voilà, et puis après. Alors après le CIF, quand on a fini, on peut faire des modules bibliques au CIF.
Ah ouais, c'est vachement bien. Hein. Parce que moi, j'ai raté la première séance d'Aude parce que je suis en même temps en train de faire les fables dans la Bible.
Femmes.
Oui, les fables. C'était concomitant.
Voilà, concomitant, exactement. Voilà.
Moi, la seule chose que je vois, c'est que le fait qu'on n'ait pas de contrôle des connaissances et d'examens, du coup, je pense qu'on apprend moins.
Oh là là.
Par rapport à une licence.
Ouais, mais attendez, en fait, c'est déjà une grosse marche par rapport à des formations qui peuvent être vraiment très intéressantes en paroisse, mais qui sont forcément moins fouillées parce que cours par semaine, c'est déjà un sacré engagement. Moi, je vous admire, hein, vraiment, tous. Hein. Encore plus le soir, parce que vous faites ça après votre journée de travail, ou voilà. Donc, je trouve ça déjà formidable. Mais en fait, l'idée, c'est de vous mettre en appétit. Mais franchement, hein, après, ça donne envie de continuer. Puis après, quand vous aurez fait ces 6 trimestres, il y a des choses qui vous auront plu davantage. Vous allez être peut-être passionné par, je ne sais pas, la doctrine sociale de l'Église, ou vous allez être peut-être passionné par la liturgie, les sacrements, parce que c'est quelque chose que peut-être vous vivez, et puis qui... On n'est pas toujours à même de rentrer dans la signification des rituels, alors qu'on s'aperçoit que tout a une raison d'être, et que, voilà, vous serez peut-être passionné par l'histoire de l'Église, ou de voir comment on s'inscrit dans une continuité, mais avec une tradition incroyable. Donc après, ça donne envie d'aller creuser. Mais c'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça que ça vaut le coup aussi d'aller lire. C'est en... voilà. Ça permet de relire les choses sous un autre angle.
Ouais. Moi, c'est le côté scolaire. L'habitude de passer des examens, finalement, ça oblige, mais ça permet de capitaliser sur des acquis aussi. Et c'est hyper riche. C'est vraiment très, très riche.
Après, vous ferez l'Institut d'études religieuses, vous irez à la Cato. Ouais.
Mais en même temps, en travaillant, c'est difficile. Donc, ce format est idéal. Mais comme il n'y a pas de contrôle, je sais que je vais peut-être un peu moins sédimenter les acquis. Et c'est un peu dommage pour le restituer dans les missions en catéchuménat ou des choses comme ça, parce que c'est hyper riche.
Ben, c'est pas grave, parce que à force, je veux dire, moi, je pense vraiment une chose. Vous parliez de catéchisme. Hein, toujours pareil, je ferai du catéchisme quand j'aurai du temps. Ouais, mais là, j'ai mes enfants, puis ils sont tout petits, donc je ne connais pas l'âge des 7, 8 ans ou 10 ans, donc non. Puis maintenant qu'ils ont 10 ans, ah bah ouais, mais je suis très prise par mon boulot, puis il y a le travail après l'école, et puis après, voilà, puis après, je suis grand-mère, et là, je ne connais plus les jeunes parce que je suis un peu dépassée, et j'en ai marre de faire de la discipline, et puis finalement, on ne le fait jamais. Donc si on attend d'être prêt, vous voyez, on ne le fait pas. L'avantage, ben, c'est cette souplesse que ça vous donne, vous faites ce que vous pouvez. Et la répétition, c'est ce que je vous dis, vous allez l'entendre ailleurs, vous l'entendrez dans un sermon, vous allez. Eh ben, à la vigile de Pascal, vous allez entendre le texte. Forcément, en le réentendant, il y a des petits trucs qui vont faire tilt parce que ça va vous revenir en mémoire. Donc,
voilà. Ça dépose. Oui, ça dépose.
Oui, raison de dire ça. Ça dépose, c'est très joliment dit.
Oui.
Exactement, ça dépose. Voilà. C'est très bien. L'important, c'est d'être en route.
Mm. Oui.
Les choses se font à leur rythme. Ce n'est pas un souci, ça. Voilà.
Donc, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Aude.
Merci, Aude.
À bientôt.
À bientôt. Tu ne l'as dit pas qu'il n'y a pas de cours.
Il n'y a pas de cours. Bonne semaine sainte, en tout cas.
Ouais. Belle fête de Pâques à tous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir à tous.
Au revoir à tous.
Bonne nuit.